Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui avec Flavie Briand. Flavie, ça va à la pêche?
La pêche.
La pêche. Nous sommes également avec Valentin
Thé. Salut.
Et avec Thibaut.
Salut à tous.
Et aujourd'hui, Thibaut, c'est toi qui va animer ce podcast. On a des tas de questions. Tu vas nous présenter, en tout cas, un projet. Qu'est-ce que... Oh là là, je vois Valentin qui frétille avec sa liasse de feuilles. Un projet bien mystérieux. Arcana Naturae. Qu'est-ce que c'est, Thibaut, Arcana Naturae?
Eh ben, Arcana Naturae, c'est les secrets de la nature.
C'est ce que ça signifie en
latin,
c'est ça?
Ouais, ouais. Et donc c'est un projet éditorial qu'on a lancé en 2019, mais le premier numéro est paru en 2020. C'est un projet alors qui a été lancé par Donato Verardi, qui est un camarade qui a fait sa thèse à peu près en même temps que moi, un camarade italien, et que j'accompagne depuis le début, parce que moi je suis secrétaire de rédaction, lui il est directeur de la revue, moi secrétaire de rédaction, et donc on est les deux forces vives pour monter cette revue, là, et puis à chaque fois on va diriger les appels, éditer les textes, un
peu etc. Qu'est-ce que c'est qu'une revue déjà pour, parce que les gens qui nous écoutent sont pas forcément universitaires.
Exactement.
Qu'est-ce
alors
que c'est qu'une revue?
Effectivement, il faut recadrer un peu la chose.
C'est pas elle quoi.
Non voilà, ça je pense pas.
donc c'est on reviendra sur les enjeux stricto sensu, mais disons que c'est une revue académique. C'est très simple. C'est un magazine, on pourrait dire. Enfin, c'est un journal dans lequel on va trouver un certain nombre d'articles qui sont des articles académiques, c'est-à-dire écrits par des gens, alors qu'ils peuvent venir de différents horizons, mais qui vont respecter un certain nombre de critères de scientificité. Et chaque article, alors c'est ça qui va donner vraiment sa force et sa scientificité à la revue, va être, on appelle ça, relu en double aveugle. Donc on va avoir deux relecteurs qui sont anonymes et qui vont pouvoir donner, qui sont des experts du champ et qui vont pouvoir vraiment donner à l'auteur toutes les remarques, toutes les critiques, demander un certain nombre de précisions de manière à ce qu'à chaque fois les articles soient, on pourrait dire, les mieux possibles ou en tout cas satisfassent un certain nombre de critères parce que même si ça nous arrive assez peu souvent, il peut nous arriver aussi de rejeter des articles qu'on trouve insuffisant sur le plan soit de l'apport théorique, de l'originalité, de ce que ça apporte par rapport au champ dans lequel on s'inscrit, ou bien parce que la méthode n'est pas suffisante, les données ne sont pas suffisamment étayées, etc. etc. Mmh. Donc on a un très gros critère de qualité, on pourrait dire, sur la revue. Donc il y a un comité...
Et juste un point, c'est notamment un élément essentiel, c'est les éléments bibliographiques. C'est
par exemple, oui.
Énormément
ouais,
d'étayage...
Voilà, alors tous ceux qui ont été reviewés par moi, voilà, s'il y a une phrase avec 100 notes de bas de page, là, ça rien ne va. et il faut absolument qu'on me démontre en tant que lecteur. Moi, j'ai besoin qu'à chaque fois qu'un auteur affirme quelque chose, soit il le démontre en assemblant sa matière, mais à chaque fois qu'il va introduire un élément, à chaque fois qu'il va introduire une source, là, j'ai besoin que ça soit très précis parce que j'ai besoin d'aller vérifier. Et d'ailleurs, je me prive pas d'aller le faire pour vraiment voir si il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de faux sens. Voilà, pour pouvoir revenir aux sources premières, pour toujours être dans ce contrôle et dans cette idée de dire, parce qu'après là on a un peu masqué le contenu, mais on parle d'ésotérisme, on va parler, donc là on va rentrer dans le dur.
L'ésotérisme,
donc
tiens
donc. On va parler de plein de sciences un peu étranges, et sur laquelle justement, parce qu'elles sont aussi un peu étranges, on va avoir une exigence de scientificité d'autant plus grande, parce que là on a besoin d'être très très précis, et surtout éviter, sur un des sujets comme ça, le côté un peu amateur, le côté un peu subjectif. Donc voilà, on va vraiment travailler dans cette direction-là. Et on a aussi un comité scientifique, donc on a un comité de rédaction, et un comité scientifique qui est composé des grands noms, des grands noms internationaux qui travaillent dans ce champ-là, qui sont des chercheurs au CNRS, qui sont des chercheurs partout dans le monde, et en Italie, aux États-Unis, et qui chacun va... Ce comité-là, alors qu'on ne sollicite pas tout le temps, mais qu'on peut solliciter pour avis, et est là aussi pour apporter sa caution, c'est-à-dire ces gens, quelque part, engagent leur crédibilité sur ce projet-là. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui nous tenait à cœur, de pouvoir, de pouvoir ancrer cette revue dans un cadre académique strict. Parce que, et c'est là où on arrive un peu au cœur du débat, parce que là vous avez compris ce que c'est qu'une revue, mais tout l'enjeu, c'est de dire aujourd'hui l'ésotérisme dans l'université, l'ésotérisme académique, combien de divisions, hein, et il y a très très peu de gens qui travaillent là-dessus. Juste pour poser le cadre de ce type d'études. Alors c'est des études qui ont émergé déjà depuis pas mal d'années, notamment en France autour de l'EPHE, donc l'école pratique des hautes études, qui est une sorte de une école à Paris consacrée surtout aux sciences religieuses, où il y a eu des très très grands chercheurs au cours de l'histoire dans cette institution là. Donc aujourd'hui qu'en France ça se concentre surtout autour de l'EPHE. Donc il faut savoir que jusqu'à très récemment, donc en gros jusqu'en, alors je vais peut-être dire une mauvaise date, mais 2012-2014, il n'y avait que 3 chaires dans le monde d'ésotérisme, enfin vraiment identifiés en tant que tel. Il y a des chercheurs un peu partout qui travaillent là-dessus, mais oui, vraiment
à un d'entre eux.
Voilà, mais des chaires au sens reconnu, si tu veux, par l'université, par l'académie, il y a très peu de gens. Donc il y avait 3 personnes. Il y avait alors avant lui, il y avait Antoine Fèvre, mais disons il y a aujourd'hui Jean-Pierre Braque, qui est à Paris, qui est un grand chercheur. Et qui a la chaire d'ésotérisme à l'EPHE. Il y avait, mais malheureusement il est décédé, il y avait Nicolas Goodrick-Clark en Angleterre, à Exeter. Et lui, il est décédé en 2012, si ma mémoire est bonne. Et malheureusement, en fait, suite à son décès, il n'y a pas eu de renouvellement. Et donc on a perdu cette chaire en Angleterre. Et il reste aussi une chaire qui est quand même très très active à Amsterdam. Donc ça, c'est Wouter Anne Graaf. Qui est un grand chercheur, qui est le président de, mais peut-être qu'il va changer là, mais on va dire qu'il l'a été pendant longtemps, le président de la European Society for the Study of Western Esotericism, SWE. Donc qui est, on va dire, la grande société aujourd'hui, c'est un peu la seule qui existe, qui rassemble tous les chercheurs internationaux sur ce type de sujet-là.
Sur ce type de sujet, ouais.
Et nous, alors c'est apparu, on a des connexions avec cette association, parce que j'en suis aussi membre. Et donc, dans les années, au moment globalement, on a lancé Arcana Naturae, c'est fondé à Paris, sous le patronage de Jean-Pierre Braque, c'est fondé ce qu'on appelle le FRESO. Le FRESO, c'est l'association française pour l'étude académique des courants ésotériques. C'est l'association francophone, pardon, j'ai dû dire française.
Oui, francophone.
Francophone, c'est important. Et l'idée, c'était de se dire, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de troupes, il y en a quand même pas mal au niveau international, parce que notamment dans les Nordiques, pas mal de gens qui travaillent sur ces sujets-là en connexion avec les études religieuses. Et donc en France, on a un vrai problème. On a un vrai problème dans le rapport à l'ésotérisme. Je vais vous donner 2-3 exemples après.
Alors juste rapidement,
ouais, vas-y.
C'est quoi une chaire ? Parce que tu t'en as parlé tout à l'heure.
En gros, c'est une position de professeur, mais qui est identifiée. C'est-à-dire, c'est vraiment cette idée de dire, c'est pas un professeur d'université qui travaille quand il a le temps sur l'ésotérisme. Il y en a beaucoup. Là, c'est vraiment quelque chose d'identifié. C'est-à-dire, il y a un poste de chercheur en ésotérisme identifié par l'institution et reconnu en tant que tel. Donc on a vraiment une reconnaissance institutionnelle, si tu veux.
Avec des thésards éventuellement qui peuvent travailler avec des thésards sur des domaines.
Jean-Pierre Braque a des thésards, là on en a, vas-y.
Ouais, souvent, je crois, si je comprends bien, mais une chaire, c'est censé être un peu reconduit, quoi. C'est-à-dire, même si la personne va par la retraite, quoi,
ouais.
La chaire de bidule. Quel que soit le domaine, on va essayer de trouver quelqu'un pour remplacer et prendre place. Ouais. Donc en gros, ça donne aussi une certaine continuité.
Au champ académique. Ouais.
C'est ça, ouais. Ça donne une certaine garantie, quoi.
Ouais. Tu peux continuer ton perso de Cthulhu, quoi.
C'est ça.
Ouais,
mais surtout, tu sais que l'université, si par exemple tu travailles sur l'ésotérisme, tu sais qu'il y a une continuité dans cette université-là, sur ce sujet-là, et que c'est pas dépendant d'une personne en particulier, mais si la personne décède, tu t'es bien inscrit à la bonne université pour étudier ce sujet-là. Parce qu'il y a aussi un enjeu d'inscription des élèves à telle ou telle université.
Et donc à l'EPHE, il y a eu Antoine Fèvre pendant très longtemps, qui est un monsieur très, très important, qui a posé un peu les bases, il n'est pas le seul, mais qui a posé un peu les bases de l'ésotérisme, de l'étude académique de l'ésotérisme en France. On pourra revenir un peu sur la définition qu'il donne. Mais donc aujourd'hui, voilà, son successeur, c'est Jean-Pierre Braque. Donc on espère, Jean-Pierre a encore, je pense, quelques années devant lui, mais on espère que ça sera reconduit et que justement.
Ah, tu crains pour la reconduction de la chaire.
Moi, je vois ça de loin. Et je souhaite tout le truc, mais il y a quand même une tension sur ce type de chaire aujourd'hui.
Alors, je sais que dans le domaine du jeu de rôle, tu tiens beaucoup avec ton frère Guillaume également à, on va dire, la dimension universitaire du jeu de rôle. Est-ce que pour l'ésotérisme, tu avais un petit peu aussi cette dimension-là dans la création de la revue, d'essayer d'asseoir en fait l'ésotérisme comme un champ de recherche, on va dire, un peu durable dans... Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas craint qu'avec toutes les personnes qui reprenaient en fait des champs d'ésotérisme dans le domaine civil et public, on va dire, pour parler en dehors de l'université, à des fins, par exemple, de création de cabinets, naturopathes ou je ne sais quoi, tu n'as pas craint à un moment donné que l'ésotérisme devienne quelque chose de populaire, de l'ordre plus de la culture pop que de la culture
intellectuelle ? C'est pas une crainte, c'est un fait. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, je vous donne un exemple. C'est qu'il y a des ouvrages très importants, par exemple, les travaux de Dame Frances Yates, qui fait une Anglaise, qui a travaillé notamment au Warburg Institute sur la question de l'art de la mémoire, sur la question de, par exemple, de l'ésotérisme chez Giordano Bruno, chez des penseurs comme ça. Donc quelqu'un de quand même très très important dans l'écosystème académique anglais. En fait, quand ces livres sont traduits en français, ça n'est jamais traduit dans des maisons d'édition académiques. C'est traduit chez Dervy. Bon, encore, j'ai aucune critique contre Dervy.
Dervy, c'est quoi ?
Dervy, c'est une maison d'édition ésotérique, avec à boire et à manger, énormément de choses, et ça brasse très large. Et ça brasse des très bons textes, comme ceux d'Yet, et puis ça va brasser des choses qui sont plus proches du développement personnel. Et ce qui est fascinant, enfin ce qui est même un peu flippant, c'est de se rendre compte que ces grands chercheurs anglais, il y en a Walker aussi, qui a travaillé sur la magie angélique, enfin, donc des gens qui sont rentrés dans la philosophie, histoire des sciences, néoplatonisme, enfin, voilà, quand ils arrivent en France, en fait, ils ne trouvent pas, enfin c'est pas eux qui vont chercher, hein, mais en tout cas quand ces contenus-là académiques passent en France, ils ne trouvent pas de lieu où être édités de manière académique, alors que c'est des choses qui ont déjà, si tu veux, tout à fait leur légitimité dans le champ académique et international, étranger. Donc ça, c'est un vrai problème.
Alors excuse-moi, ouais. On pourrait contredire et dire, bah non, au contraire, le fait que le champ académique arrive dans la culture populaire et soit distribué dans un large domaine, à Cultura ou je sais pas quoi... Ouais. C'est au contraire, c'est la consécration pour un chercheur. Je veux dire, les chercheurs, ils se plaignent toujours d'être dans leur coin et que leur thèse n'est jamais lue.
Bah alors, c'est paradoxal. C'est-à-dire que là, il y a un problème de court-circuit où, en fait, on a le problème, si tu veux, c'est qu'il y a une profanation, enfin, pour le dire un peu vite. J'emploie ça dans un terme très... Il y a une profanation trop rapide. C'est-à-dire que là, le chercheur, si tu veux, encore une fois, il y a une sorte de... C'est deux mondes différents. D'ailleurs, là, il y a un texte académique important qui arrive directement dans une collection qui va être considérée, à tort ou à raison, quelque part, c'est pas mon sujet, mais disons, qui va être considérée alors le grand public il voit ça de très loin, mais disons par le monde académique francophone comme secondaire, comme inintéressante, comme dangereuse, enfin comme problématique, etc., etc. Et donc en fait ces chercheurs, finalement ces travaux de recherche sont immédiatement neutralisés, enfin j'emploie ce terme là, en disant qu'ils perdent leur caractère académique en arrivant dans une maison d'édition qui ne l'est pas. On peut déplorer le fait, c'est-à-dire le contenu, c'est le contenu. Voilà, on est d'accord avec ça, tu vois. Mais ça n'empêche que dans le monde académique, il y a quand même des enjeux forts en termes de...
Crédibilité.
Ouais, de crédibilité, mais surtout quelque part, et c'est un peu un problème, hein, mais bon, c'est presque de branding. C'est-à-dire en fonction de l'éditeur qui vous publie, même le travail étant égal par ailleurs, bah, ce travail il va être affecté d'un coefficient de scientificité qui va dépendre de l'éditeur. Encore une fois, à travail égal. Donc c'est problématique, mais c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est l'œuvre de ces grands chercheurs, elle est dévaluée mécaniquement, si tu veux, par le simple fait que les éditeurs qui s'en emparent, tu vois, sont pas reconnus.
Oui, puis quand on fait des travaux de recherche, on a aussi des sites spéciaux sur lesquels on va, en fait, pour qui nous permettent de savoir si la revue, elle est scientifique ou pas. Et du coup, en fait, ces articles-là n'apparaissent pas, vu que la revue dans laquelle ils sont publiés, en fait, n'a pas, par exemple, de publication en double aveugle, de vérification en double aveugle, etc. Et du coup, c'est, par exemple, sur... par exemple sur Google Scholar, là j'ai fait une petite vérif. Ça n'apparaît pas, enfin, tu vois.
C'est... Qu'est-ce qui n'apparaît pas?
Enfin, tu vois, sur Google Scholar, si tu cherches du coup la personne dont t'as parlé, la Yetz tout à l'heure, là, j'ai fait la... En fait, il y a des trucs qui pas... enfin, tu les vois pas, en fait.
En anglais,
ça,
peut-être.
Ça, normalement, tu devrais les trouver en
anglais. Tu devrais les trouver, j'ai fait une recherche rapide. Mais il n'empêche que tu vas sur... Quand tu as des sites, enfin, tu as des moyens de calculer, en fait, la scientificité, en fait, d'une revue qui te permet ensuite de savoir si tu utilises ou pas l'article. Or, du coup, comme c'est publié dans un truc qui ne l'est pas, qui n'est pas considéré comme scientifique. Tu n'as
pas le crédit, en fait.
C'est ça, tu vas pas le... Si tu ne connais pas trop la personne, en fait, tu ne vas pas aller lire l'article. Tu vas
mais
pas
si tu le trouves dans sa version originale, tu dois voir...
C'est ça tout le paradoxe, en fait. C'est que quelque part, tu cites Yetz dans ou d'autres, Walker ou autre, dans leurs éditions originales anglaises, personne ne pourra jamais rien te dire. Si par contre, tu cites avec DRV ou avec d'autres... Enfin, il y a d'autres maisons d'édition comme ça qui sont un peu affectées de... On se demande si c'est sérieux. Là, ça sera problématique. Enfin, disons quelqu'un qui ne connaît pas l'auteur en tant que tel et qui se fie juste au tampon de l'éditeur, va pas avoir le même rapport.
Alors,
donc voilà. Donc ça, c'est un peu la picture, si tu veux, la photo des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Et donc nous, on est face à ça et on est face à ce déficit aujourd'hui en français. Alors, il n'y a pas de maison d'édition qui travaille. Enfin, encore une fois, il y en a, mais il y a un déficit de représentativité des questions ésotériques dans le monde de l'édition française. Il n'y a pas de revue non plus, à notre connaissance. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit, voilà, il y a un trou, et il y a aussi des jeunes chercheurs.
Pourquoi, du coup, à ton avis, en France, est-ce que c'est lié à l'histoire des Lumières, genre on est trop bien pour pouvoir travailler là-dessus
Ouais, alors c'est lié à un mythe qui est celui des Lumières. Parce que là, il y aura aussi beaucoup à discuter. Je sais pas si on le fera, si on se prendra le temps de faire ça. Mais c'est-à-dire que en France, on construit un mythe de rationalité. Il suffit de regarder l'histoire de la fin du 18e et du 19e siècle pour se rendre compte que ce mythe, il a quand même énormément de... Voilà.
Ça, c'est vraiment un des travaux de Pierre Lagrange.
Ouais,
il a vraiment démythifié plein de trucs comme ça, débunké plein de mythes rationalistes, et notamment celui de Galilée.
Ouais, par exemple.
Voilà. Et voilà, et donc ça c'est quelque chose auquel il tient beaucoup, ces mythes rationalistes.
Mais disons qu'en France, il y a un rapport à ces savoirs-là qui est, qui est problématique. Après, c'est difficile de...
Et c'est vraiment franco-français alors, lié à l'histoire.
C'est quand même lié à la France.
Ok, Valentin.
Moi du coup j'ai une question de clarification depuis le début.
Vas-y.
Donc ésotérisme, hein, c'est ça le champ.
Alors après je vais repréciser, on va appeler ça science secrète nous.
Ouais, alors du coup, j'ai juste une question pas claire en termes de c'est quoi l'objet, c'est quoi la méthode, pour résumer, au sens où, donc, de ce que je comprends de loin, et puis tu me corrigeras du coup, il y a genre des pratiques anciennes et contemporaines, j'imagine, que vous qualifiez de, par exemple, occultes ou quelque chose comme ça. Ces pratiques-là, bon, les gens font des trucs, genre de la magie et tout, ils invoquent des démons. Ils font du jeu de rôle et des gens ont fait ça ou des choses qui ressemblent à ça et peut-être continuer à en faire, et c'est là où j'aurais besoin de clarification. Et vous, dans ce champ de recherche, en fait, c'est votre objet d'étude, si je comprends bien. Donc c'est super intéressant, des gens qui font ce genre de truc là, c'est-à-dire de l'occultisme ou quoi. Et pour moi, donc, est-ce que c'est une branche des sciences humaines, j'imagine, déjà ce que vous faites, ou en tout cas vous convoquez les sciences humaines, genre sociologie, anthropologie, histoire, etc. Et du coup là vient un paradoxe, enfin je comprends pas pourquoi vous seriez marginalisé, sachant que vous étudiez des faits sociaux comme les autres, quoi.
Alors ça c'est une question intéressante. Alors il y a deux choses.
Est-ce que j'ai bien brossé le tableau de ce que vous faites?
Mais
et de l'objet.
Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a la revue en tant que telle, qui est qui est une revue d'histoire des sciences secrètes. Et dans histoire des sciences, il faut vraiment entendre histoire des sciences. Donc c'est vraiment et puis après je vais rediscuter du champ un peu plus large dans son ensemble, mais disons que nous, tel qu'on pense la revue, c'est vraiment cette idée de dire on veut étudier l'articulation entre savoir des sciences secrètes et savoir légitime. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les passages, les circulations, les tensions entre ces deux éléments-là. Et dans les différents numéros que vous pourrez lire, si ça vous intéresse, on a toujours essayé de travailler un peu dans cette direction-là, qui est, on va dire, celle d'une histoire des idées. Donc on est vraiment, vraiment dans la notion historique et idée, ouais.
Flavie. Moi, je suis désolée, j'ai pas tout lu, mais j'ai beaucoup lu celui qui parlait des femmes, je sais plus comment il s'appelle.
Science
et magie au féminin. Et là, du coup, on a pas mal de portraits de femmes qui sont décrits. Des femmes en fait qui sont à la fois dans le passé qui faisaient une sorte de recherche de science et qui du coup basculaient d'un côté et de l'autre et qui du coup avaient une posture compliquée dans la société parce que du coup elles étaient à la fois en train de chercher des postures scientifiques, des réponses en fait, et qu'elles les ont cherchées des deux côtés en fait. Et ça se retrouve beaucoup dans cet art. Du coup, j'ai pas lu les autres, mais ça doit être pareil.
Chaque numéro a son identité, parce que là on l'a pas dit, mais on fait des numéros thématiques.
Vas-y, alors justement, numéro 1, il s'appelle comment ?
Numéro 1, très important, parce que c'est le numéro quelque part qui jette les bases de ce qu'on a envie de dire. Et donc le numéro s'appelle Secret, Occulte et Merveille. Et quelque part, et là, ça, c'est la réponse à Valentin, cette idée de dire. C'est quoi notre champ ? Notre champ, on le pense dans cette direction-là. C'est-à-dire, il y a du secret, il y a de l'occulte, il y a de la merveille. Cette idée de dire, on a des savoirs, des sciences, qui travaillent avec ces notions-là, tu vois, et qui vont, il faut les historiciser, c'est-à-dire, par exemple, le lien entre secret et occulte au Moyen-Âge n'est pas le même que ce qu'on a aujourd'hui. Et ça permet de comprendre, par exemple, on va dire par rapport au savoir, pour le dire un peu vite et peut-être en trahissant un peu Nicolas Veille-Parot qui a écrit un papier dedans sur cette question-là, mais en gros l'idée c'est de dire on a un savoir secret au sens médiéval, c'est-à-dire c'est des savoirs qui sont opaques mais qui peuvent être révélés, tu vois, les propriétés secrètes de la nature, c'est des choses finalement on peut aller chercher, versus l'occulte. Qui est une division fonctionnelle, hein, mais qui est discutée historiographiquement, mais là je simplifie. Donc on a ce couple du secret qui peut être révélé et de l'occulte qui lui résiste et résistera toujours. Et par exemple, alors aujourd'hui on a un regard différent sur ce type de choses, mais par exemple la propriété de l'aimant, c'est pas un secret. La propriété de l'aimant, elle est occulte. Dans le sens, c'est une propriété occulte des choses sur lesquelles on n'a pas prise, il n'y a pas à révéler quelque chose. C'est une propriété qu'on ne comprend pas et qu'il faut accepter en tant que telle et qui est agissante. Tu vois. Et donc, donc ça, c'est un exemple, par exemple, de la manière dont ce type de science hein, qui échappe, on va dire, au savoir commun, vont être théorisées au cours de l'histoire. Et nous, on va essayer, dans ce premier numéro, à travers un certain nombre d'exemples, de comprendre, tu vois, comment chaque discipline pense différemment le rapport tu vois, autour de la merveille. Donc ça, c'était le premier numéro. Et le premier numéro est très centré autour de la Renaissance. Alors, tout simplement parce que Donato et moi-même, on vient de l'art, tu vois, c'est un peu notre premier terrain d'étude, même si on en a d'autres, mais c'est ce qui nous intéresse. Parce que, et puis, du point de vue de la constitution des savoirs en Occident, c'est un moment très important, parce que c'est le moment, en fait, de bascule ou plutôt de passage entre les savoirs anciens avec une sorte de savoir à la fois très totalisant et en même temps où le secret occupe une place très importante et où on va se concentrer sur les choses étranges, les particularités, tout ce qui est rare, etc. Et donc on va dire la science de l'époque travaille dans cette direction-là. Et puis après, il y a les grands passages au XVIIe siècle, avec notamment Galilée, où on change un peu. Alors là, je simplifie à fort trait, mais c'est cette idée de dire tout d'un coup, on s'intéresse moins à la particularité qu'au plus universel, au plus commun, et on va essayer de mettre de donner accès aux lois les plus, tu vois, du plus commun,
Ouais.
Tu vois, et ça, c'est quand même un passage très important par rapport, par exemple, à quelqu'un que Donato et moi aimons bien, qui est Della Porta, Jean-Baptiste Della Porta, qui lui est le grand savant de la magie naturelle et qui va essayer d'investiguer en fait tous les phénomènes étranges de la nature et avoir, en plus c'est un grand savant qui apporte beaucoup de choses en optique, etc. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est une science qui est centrée sur l'effet qu'elle produit sur le spectateur, tu vois. Mmh. Et donc qui est un peu aussi lié à l'illusionnisme, à la magie. Donc tu vois, donc ça c'est vraiment cette idée de se dire à travers ces notions là finalement on peut refaire une histoire des sciences qui est un peu différente, qui et qui intègre des paradigmes scientifiques qui aujourd'hui sont un peu marginalisés, même s'ils ont continué, tu vois. Mais c'est cette idée de se dire quand même, il y a beaucoup à retrouver dans le rapport aux sciences. Donc ça, c'était vraiment le premier numéro. Je suis désolé. Deuxième numéro, ça c'est un.
C'est hyper intéressant. Sois pas désolé, Thibaut.
C'est un numéro auquel je tiens beaucoup parce que là je l'ai vraiment dirigé moi-même avec beaucoup beaucoup d'amour. Et puis en plus c'est un numéro qui a survécu au Covid. Donc, c'est le numéro de 2021. Donc je peux vous dire que ce numéro il revient de très très loin parce que toutes les bibliothèques étaient bloquées, parce que la recherche s'est arrêtée quand même pendant 2 ans et donc il revient de loin. Et dans ce numéro là l'idée c'était de réfléchir sur mon sujet vraiment qui était illusionnisme et magie. Donc c'est vraiment de se dire là on sort un peu de l'histoire des sciences même si c'est très proche, mais c'est de partir alors je vais essayer de pas être trop long, c'est de cette idée de dire aujourd'hui tout le monde a une idée de la magie au sens spectacle de magie, on sait ce que c'est qu'un spectacle de magie, etc.
Prestidigitation. Parce qu'attention, voilà. Là, tu t'adresses à des rôlistes.
Exactement.
La magie, pour eux, c'est pas la prestidigitation.
Alors, les rôlistes sont peut-être effectivement un bon public à qui s'adresser, parce que quand on parle à des magiciens, à des illusionnistes, à des prestidigitateurs, pour eux, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que dans la tête d'un prestidigitateur, magie égale illusionnisme, ils font de la magie, ils se disent magiciens, et ils ne problématisent pas la notion. Et moi, et ça, c'est à la fois d'un point de vue de mon travail de recherche historique et de mon travail, on va dire, de praticien de l'illusionnisme, au sens où je collabore avec des illusionnistes pour les aider avec mon ami Antoine Leduc. On a fait un spectacle au musée de l'armée là il y a quelques jours aux Invalides, où on a mis en scène une main de gloire, on a fait de la médiation culturelle autour de cet objet de sorcellerie.
C'est quoi la main de gloire?
Alors pardon, donc
t'expliques.
Alors pardon pour la digression. La main de gloire, c'est trigger warning, c'est une main de pendu. Hein, qu'on coupe, il y a une préparation très très étrange qui permet de la transformer en ce qu'on appelle une main de gloire, c'est-à-dire une main momifiée sur laquelle il y a des bougies. Donc c'est des recettes de sorcellerie qui sont décrites depuis le XVIIe siècle, et on connaît des représentations depuis au moins le XVIe siècle. Et donc quand on allume les bougies qui sont au bout des doigts de cette main, ça permet aux voleurs de plonger une maison, de plonger tous les habitants d'une maison dans le sommeil, de les fasciner de manière à ce que les voleurs puissent piller les maisons en toute quiétude. Et ça, c'est un objet tout à fait maudit, tout à fait intéressant, et qui a été présenté...
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Cool objet magique pour ta partie de jeu de rôle, là.
Alors, c'est un objet qui apparaît dans une des campagnes, je crois, de l'appel de Cthulhu. J'ai plus en tête le nom de la campagne, mais effectivement c'est un objet qui apparaît dedans. Enfin bon, bref, je vais pas faire trop long, mais disons que moi parce que j'ai mon versant artistique, il est vraiment concentré là-dessus. Il est vraiment concentré sur cette idée de dire l'illusionnisme n'est pas la magie. C'est-à-dire, je refuse en fait de considérer ça comme un a priori. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment l'illusionnisme peut devenir de la magie. C'est-à-dire comment, en fait, on va utiliser une forme artistique qui pratique l'illusion pour, en fait, renouer avec un certain nombre de traditions magiques, pour le coup, non illusionnistes, si tu veux, pour vraiment permettre à des spectateurs de vivre des expériences magiques, au sens fort. Tu vois, au sens vraiment, c'est pas un tour de carte, ah tiens, c'est bizarre, comment il fait. C'est vraiment de se dire, on aide les gens à renouer avec des traditions magiques comme la main de gloire, et c'est le spectacle qu'on a fait. Donc, pardon de la digression, mais l'idée.
J'aurais bien voulu voir ça.
L'idée, en fait, c'est. Et ce travail historique, il est là pour vraiment se dire, Mais alors, les rôlistes sont peut-être effectivement un bon public. Enfin, comprennent intuitivement en fait la différence entre illusionnisme et magie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais donc là, l'idée, c'est de dire, il faut problématiser l'assimilation entre les deux, qui n'est pas du tout évidente. Il faut réfléchir aux différents paradigmes, par exemple artistiques de l'illusionnisme. Et donc dans le numéro de la revue. Alors c'est moi qui ouvrais le numéro parce qu'on a mis les articles en ordre chronologique, donc moi j'ai proposé une exploration en gros depuis, avec un petit élément sur l'antiquité, mais disons l'illusionnisme entre le 10e siècle ou le 10-11e siècle jusque au 15e siècle, donc on est vraiment sur une période très ancienne, et là en essayant de comprendre en fait comment les tours de magie, ce qu'on appellerait aujourd'hui les tours de magie, vont être utilisés par exemple chez les grands penseurs de la scolastique. Enfin, en gros, c'est chez Guillaume d'Auvergne. Qu'est-ce que ça veut dire à la fois la magie naturelle, quel terme qu'il invente, et puis en même temps qu'il invente le terme de magie naturelle, il intègre la question des tours de passe-passe, de ce que lui appelle trajectiones, mais qu'on pourrait traduire par tour de passe-passe. Donc c'est un moment historique très très important, vers 1240, au XIIIe siècle, et puis après ça passe un peu chez Roger Bacon, chez d'autres savants. Et donc quelque part c'est le premier acte de cette tension qui n'aura de cesse d'avoir lieu entre la magie naturelle, qui elle va plutôt utiliser les propriétés occultes des choses, et puis l'illusionnisme qui utilise des artifices on va dire un peu plus soit mécaniques, soit les mains, etc. Donc il y a cette tension en fait entre l'artifice et qu'on pourrait appeler la science, qui n'est pas une science encore une fois, mais qui est le secret actif, tu vois. Donc ça c'est ce que j'ai. Puis bon, il y a d'autres éléments dans l'article, mais en gros l'idée c'est de réfléchir là-dessus. Et puis après il y a d'autres contributions vraiment. J'adore ce numéro hein, parce que on a par exemple ramené. J'ai une collègue tunisienne qui nous a offert un superbe papier parce qu'il y a très peu d'infos dessus sur l'illusionnisme dans le monde médiéval islamique. Donc ça c'est bon, il existait un article que j'ai traduit à la fin d'un chercheur allemand qui avait un peu fait la première étude sur le sujet, mais qui était un peu resté lettre morte dans les années 70, et puis il n'y avait pas eu vraiment de continuateur qui avait travaillé là-dessus. Donc là il y a une chercheuse qui a permis de nous redonner en fait le répertoire des battleurs, des charlatans, des escamoteurs dans le monde islamique, avec un peu les expériences de physique amusantes qu'ils faisaient, etc. Donc ça c'est très précieux parce que ça nous aide à décentrer un peu le regard sur ces traditions-là.
Ouais, le problème, c'est qu'on est un peu prisonnier de notre regard occidental.
Ouais, alors après, si on travaillait bien et en profondeur, ça pourrait être intéressant. Il ne faut juste pas rester piégé dans le 19e siècle occidental, parce que là, c'est effectivement. Mais là, l'idée, c'est que je pense que le monde islamique est un peu le. On sait, et le chaînon manquant sur pas mal de choses, notamment sur la transmission des textes. Des textes au sens large, depuis la philosophie naturelle d'Aristote, enfin depuis les textes d'Aristote, jusque à des textes magiques pour le coup, hein, on va dire au 11e, 12, 13e siècle, il y a énormément de textes qui passent.
Avec les croisades, ouais.
Mais pas forcément avec les croisades, ouais. En fait. C'est pas ce moment historique, ça passe plus par l'Espagne et l'Italie. Donc, les croisades participent de la transmission des savants, mais c'est quand même pas, c'est pas les très. On a des traducteurs, par exemple, on a des traducteurs anglais qui vont venir en Espagne, traduire, repartir en Angleterre au 12e siècle, tu vois. Donc il y a vraiment ces transmissions-là. Donc il y a énormément de nouveaux textes qui arrivent et qui sont aussi le, tu vois, qui là c'est pour revenir à Guillaume d'Auvergne, c'est un moment où les premiers grands professeurs de l'université de Paris, hein, c'est ça, hein, tu vois, sont confrontés à des nouveaux textes. Ils sont confrontés à Aristote qui arrive. Il faut traiter cette masse du savoir. Tu vois, saint Thomas d'Aquin, ça sera un élève de Guillaume d'Auvergne. Donc on est vraiment dans ce premier nœud où il y a à la fois des textes magiques, des textes d'Aristote. Enfin, tout ça arrive et il faut savoir rendre raison de ces textes-là. Et c'est à ce moment-là que la notion de magie naturelle arrive. Ouais.
Niveau culture pop, c'est le moment où je veux le film Le Nom de la Rose.
Bah oui.
Ouais. Je sais pas si vous avez vu. C'est vraiment, je trouve, l'illustration de cette époque en fait.
Ah,
où il y a plein de taxes qui arrivent et on sait pas trop comment les traiter. Il y a plein de théories qui se mettent en place et tout.
Ouais.
C'est ce moment-là.
Ouais, c'est un moment charnière, excellent, tu vois, qui est difficile à atteindre, mais qui est en même temps extrêmement important.
Mais en plus, les savants occidentaux de cette époque, ils étaient super gourmands des textes arabes, quoi.
Très très bons.
Et ils voulaient vraiment au maximum en récupérer. Il y avait un commerce qui était en place avec des gens qui justement pouvaient faire les traductions et tout.
Commerce de traduction avec
du business quoi.
Ouais ouais, business avec des médecins juifs aussi jouant les intermédiaires, opérant des traductions. Enfin c'est un moment vraiment fascinant de l'histoire, tu vois, avec à la fois les deux traditions, une tradition byzantine directement grecque qui arrive chez Saint Thomas d'Aquin. On pense qu'il y a certains textes, il avait et une version grecque et une version latine arrivée par les traductions passées globalement par l'Espagne. Donc c'est vraiment un moment passionnant. Mais bon, c'est pas le sujet, mais disons que l'idée c'est d'essayer de réfléchir là-dessus. Donc en fait, par ce petit biais qui va être la magie, l'illusionnisme, ce type de choses, ça nous permet aussi d'avoir des accès à des pans entiers de la constitution des savoirs en Occident. Et puis avec cette connexion au monde arabe qui est très intéressante. Et à la fin, par exemple, on a aussi avec Kaoussar, avec ma collègue tunisienne, on a édité des planches inédites en Occident, c'est-à-dire personne n'avait jamais vu ça. Des planches entières de matériel d'escamoteur, de matériel de magicien, on pourrait dire, mais d'illusionniste. Alors qui date peut-être 15e, 14e. Tout ce matériel. Matériel-là, il est très important. On a essayé de l'éditer, de le rendre accessible. Donc il y a tout ce travail-là. Moi, j'ai aussi édité dans cet ouvrage des manuscrits qui contiennent les premières, à ma connaissance en tout cas, les premières descriptions en français de tours de magie. Tu vois, donc des manuscrits de la BNF, pareil, qu'on a rendu accessible pour la première fois. Donc entre les premiers manuscrits, je crois, sont du 14-15e siècle. Donc c'est quand même très très intéressant. Avec tout un tas de petits tours pour faire changer des fleurs de couleur. Enfin, on a des choses assez, assez amusantes. Et puis, d'autres éléments qui, là, c'est-à-dire en étant aux prises avec cette longue histoire de l'illusionnisme, ça permet aussi de réfléchir, par exemple, à d'autres moments historiques, comme le XVIIIe siècle, où là, on a la grande vogue de la vulgarisation des sciences. Avec cette idée de dire, il faut rendre les sciences intéressantes, il faut rendre les sciences spectaculaires, et donc, à ce moment-là, Rabico, par exemple, il y a un article sur Rabico, il y a un article aussi sur d'autres vulgarisateurs des sciences et illusionnistes du XVIIIe siècle, où là, c'est un autre rapport aux sciences qui se joue dans les théâtres ou dans des théâtres de sciences. Ouais.
En t'écoutant, j'ai l'impression que tu nous fais l'histoire de la chimie amusante.
Ouais, bah ça c'est mon data, ouais.
C'est-à-dire que dans le commerce aujourd'hui, chez Leclerc, partout, tous les commerces, tu peux trouver des petites boîtes. La chimie amusante, qui est censée être une initiation en fait pour les enfants ou pour les grands enfants, de petites expériences un peu spectaculaires qui te mettent en fait sous le nez, qui te rendent saillante, évidente en fait des phénomènes chimiques ou des réactions chimiques, etc., qui sont du coup surprenantes, qui suscitent l'émerveillement, on revient sur le mot de merveille, de merveilleux que tu disais tout à l'heure, et qui en fait est là pour nous, j'allais dire, nous faire la publicité de la démarche scientifique.
Exactement. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est, en tout cas dans ces années-là, même dès le début du XVIIe siècle, on a des premiers, les récréations, alors on appelle ça des récréations, mais ça veut dire la même chose, des récréations mathématiques, des récréations scientifiques. Donc ça, ces premiers textes-là, ils ont pour objectif, avec un double sens qui est pas voulu, je pense, qui est constitutif du mot, où on a l'idée de recréer et de récréer. Tu vois, c'est ça à la fois, on recrée pour récréer, donc il y a tous ces enjeux-là. Et c'est des professeurs de maths, notamment, qui encore une fois, dès le XVIIe siècle, hein, c'est quand même très vieux, ont des manuels avec... Il y a des tours de cartes qui permettent de mettre en scène des principes mathématiques, etc., etc. Donc c'est vraiment une littérature fascinante.
Moi qui me suis un peu renseigné sur le tarot dans le cadre de la création du Val des Étoiles, tu vois, justement, le tarot, il y a une forte supputation sur que la création du tarot aurait été un outil pédagogique dont les dessins auraient été faits par Botticelli ou par des disciples de Botticelli en vue d'apprendre et d'enseigner la théorie politique et sentimentale de Platon. Enfin,
ouais, alors il y a un superbe article de notre camarade Christophe Poncé.
Ah ben d'accord.
Donc dans le numéro 2, vous trouverez, alors là c'est un article consacré au battleur. Donc là Christophe Poncé vient de sortir un livre sur ce qu'il appelle alors en anglais ça marche très bien parce que c'est The Tarot of Marsilio. Et là, toute l'astuce, effectivement, ouais. C'est à la fois le tarot de Marseille et c'est le tarot de Marcel, enfin de Marcille, hein, ouais. Marcille Ficin. Donc, et, alors juste pour pareil, hein, je suis désolé, là, c'est le podcast digression, mais Marcille Ficin, qui c'est ? Marcille Ficin, c'est l'homme, pour le dire un peu vite, c'est l'homme qui introduit Platon en Occident. C'est l'homme par qui Platon revient. Il était déjà un peu là, etc. Mais disons qu'il y a, au moment de la, au moment de la chute de Constantinople et puis dans ce moment de crise de Byzance, ouais. Enfin Byzance Constantinople, il y a des savants qui vont venir en Italie et qui vont amener dans leur valise des recueils entiers de textes de Platon. Qui n'était pas connu en fait en Occident au sens Occident latin et Marcille Ficin sera missionné en fait pour traduire ces textes là en latin et à partir de là ça va être la révolution parce que Platon va faire son grand retour, le néoplatonisme va faire son grand retour et la thèse de Christophe Poncé c'est effectivement de dire que le tarot de Marseille, de Marcille porte en lui les enseignements du néoplatonisme, etc.
Bah, je crois bien que la source de l'information, enfin l'information de cette croyance que j'avais que ouais, voilà et, vient de Poncé.
Donc, et Christophe a fait un documentaire il y a déjà longtemps
sur Arte.
Voilà, c'est ce documentaire
qui me voilà. Servait de référence. Bah,
et qui est, voilà et Christophe en plus vient de faire paraître un bouquin et puis donc c'est un mec très très sympa.
Ouais. Donc c'est Adrien Cahuzac qui me l'avait conseillé, on l'avait regardé ensemble avec Flavie.
Donc voilà un peu le sur dans ce numéro, bon il y a deux trois autres trucs mais pour pas trop être trop long, il y a donc sur l'illusionnisme, la manière de montrer histoire de la physique amusante, centralité de l'émerveillement dans le rapport aux sciences.
Ouais.
Voilà, ça c'est très important et puis voilà, et puis tout cet arrière-plan spectaculaire, tu vois, qui moi m'intéresse.
Il y a un autre film, puisque tu citais c'est Le Prestige qui me vient tout de suite en tête, parce qu'il y a cette opposition, justement, entre la science, d'une part, avec justement les études de Tesla et du premier magicien, et l'ancien illusionnisme.
Ouais.
Et là, on voit bien Flavie. Qu'en fait... j'ai l'impression que ça donne, c'est que si tu t'intéresses à l'illusionnisme, c'est parce que pour pouvoir créer des illusions, ils étaient obligés de travailler du coup cette magie naturelle, donc de réfléchir en fait à la science,
ouais.
Ce qu'on pourrait appeler des sciences aujourd'hui,
savoir, hein.
Pour les exposer en fait à la population. Et cette population du coup s'y intéresse et du coup c'est un peu le développement du coup de la pensée, d'un début de la pensée scientifique dans la population.
En fait. Ouais.
Ouais. Et d'une certaine forme de recherche de pédagogie aussi.
Ouais, c'est ce que j'allais venir. Ouais. J'allais venir ouais.
C'est-à-dire de rendre accessible des éléments.
C'est
de
l'ancêtre
physique.
De la main à la pâte.
C'est quoi la main à la pâte?
La main à la pâte, c'est actuellement pour. C'est une méthode pour enseigner les sciences aux enfants qui explique qu'il faut passer par l'expérience plutôt que par des grands discours. Donc en fait, on leur fait faire des expériences et il y a des tonnes d'expériences sur leur site. Et c'est ça en fait.
Très intéressant ça. L'idée qu'il faille. Incarner, émerveiller pour intéresser et donc susciter la recherche. Mais l'émerveillement.
Surtout que la main à la pâte va de pair aussi avec une méthode, en fait. Tu as une méthode, des protocoles à suivre, etc.
On en parlait hier avec Flavie, c'est incroyable. Hier soir, on avait une discussion avec Flavie autour du mot wonder en anglais. Et donc, du coup, on disait que donc, chez Aristote, il y avait cette fameuse phrase que l'émerveillement, le merveilleux est mère de philosophie. Ce qui, pour Aristote, veut dire. Qui est un philosophe donc, qui cherche à tout catégoriser, à tout cataloguer, etc. Et donc un proto-scientifique, si j'ose dire, enfin un scientifique avant l'heure, c'est voilà, la philosophie pour lui c'est les sciences, donc l'émerveillement est source de connaissances.
La phrase elle est aussi chez Platon.
Elle est aussi chez Platon.
Avec une petite variante.
Qu'est-ce qu'il dit chez Platon
Je sais plus exactement.
C'est peut-être que je me trompe et que c'est
Platon. Mais il y a les deux. Reprennent okay, de manière un tout petit peu différente. Mais là, c'est un peu loin pour vous donner une caractérisation précise.
Ouais, mais nous, c'est pareil. On l'a cité de mémoire avec.
Mais il y a même Montaigne exact. Le reprend aussi. C'est vraiment une phrase qui est importante et qui revient.
Qui revient régulièrement.
Et d'ailleurs, qui joue. Mais là, ça nous entraînerait trop loin. Qui joue un rôle clé en fait dans la réinterprétation de la tradition philosophique chez Heidegger.
D'accord. Ouais. J'ai vu aussi que tu citais Heidegger dans ton papier sur le jeu de rôle. J'aimerais bien, à un moment donné, il faudra que tu m'expliques quelles affinités tu as avec Heidegger, mais ce serait une autre histoire.
Ce serait une grande discussion.
Ouais.
Donc l'émerveillement est clé. Et effectivement, chez Aristote, en tout cas, c'est un peu différent chez Platon, mais chez Aristote, c'est ça qui va mettre en branle l'intellect. C'est cette idée de dire, on est arrêté, et puis on fait l'expérience de l'aporie, et après il va falloir la dépasser, il va falloir l'ouvrir. Et là, Aristote a un terme, c'est diaporein, il faut traverser, quoi, il faut réussir à passer, et puis quand on passe, là, on accède à un autre plan de conscience, on résout le problème. Ouais. Et je pense que, pour revenir à la chose, la science, l'illusionnisme, tout ça, permettent d'avoir accès à ce type d'expérience fondamentale. Donc ça, c'est,
Ouais. Le troisième tome, pardon. Ah, t'avais une question.
C'est intéressant, je viens d'avoir un flash, c'est qu'en fait, en psychologie, on utilise énormément les illusions pour créer du merveilleux, pour susciter l'intérêt. Donc typiquement les illusions d'optique pour pouvoir dire vous voyez aux étudiants les choses que vous croyez fonctionner d'une certaine manière, en fait vous voyez bien que là votre présupposé peut pas être vrai.
Oui, c'est vrai que
étant ça. Donné que là vous avez le sentiment que par exemple on montre des illusions quoi, et en fait ça fait se rendre compte de phénomènes dans la pédagogie, en psychologie, dans les
ça met en crise la sensation, enfin le sensible.
Ouais,
et Descartes d'ailleurs, c'est son truc, hein. C'est vraiment Descartes, c'est sa base, quoi. C'est de dire mais en fait mes sens me trompent. Ouais. À travers les illusions d'optique, le bâton dans l'eau fendue, enfin il a plein d'exemples Descartes, et il dit voilà, si mes sens se trompent, il faut que, si je peux plus me fier à mes sens, faut qu'on trouve autre chose, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Donc oui, c'est marrant ça, en psychologie effectivement il y a ça. Ouais.
Et en neurosciences, alors peut-être un peu moins aujourd'hui, mais je pense que si encore. Ça a été, il y a 10 ans là, c'était très très utilisé l'illusionnisme, il y a eu une mode très forte, notamment aux États-Unis, où en fait où ils ont réactivé, c'est très drôle, des travaux français de la fin du 19e, genre Binet. Et donc en fait ils ont repris les travaux de Binet, et ils ont retravaillé, et ils ont vraiment travaillé sur... la manière en fait dont on voit sans voir, par exemple. Donc ils ont combiné oculométrie et tour de magie pour essayer de comprendre en fait.
C'est quoi l'oculométrie ?
L'oculométrie, c'est tu suis les mouvements des yeux en fait. Comme tu sais ce que les gens regardent.
Ok.
Et donc l'idée c'était de savoir en fait est-ce qu'il y a une corrélation entre le voir au sens l'œil est dessus. Regarde et en même temps, est-ce qu'on perçoit, tu vois, cette dichotomie-là. Donc il y a eu beaucoup de travaux. Il y a un bouquin qui s'appelle, dont je vais oublier le nom là, mais je crois que il y a une histoire de lapin, de Macnic. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais redonner la ref. Mais donc ça a vraiment consacré ça. Pardon.
Ouais, ça me fait beaucoup penser à toutes les expériences que tu peux faire sur l'inhibition, en fait. Par exemple, quand on montre une vidéo où on dit regardez bien le ballon.
Ouais.
T'as pas vu le gorille. Voilà, c'est exactement ça en fait. C'est tout ce qui est travail sur les fonctions cognitives, etc. Il y a 10 ans en fait.
Et pourtant, il est là, et pourtant,
ouais.
Tu étais censé le voir. En fait.
Et je l'avais pas vu.
Donc c'est l'illusionnisme aujourd'hui utilisé en neurosciences. Donc numéro 3, occulte médecine. Donc là, l'idée, qui est un numéro qui a été dirigé par un docteur maintenant, mais de Jean-Pierre Brac, qui a fait sa thèse qui vient de publier un bouquin sur les médecines ésotériques. Donc là, tout l'enjeu pour lui, c'est vraiment de se dire, pendant très longtemps, médecine et ésotérisme ont été séparés, c'est-à-dire que c'était un peu, il fallait surtout pas les penser ensemble. Et donc là, le but, c'est de reprendre, encore une fois, de reprendre la main sur cette histoire complexe en montrant les liens, en fait, entre ces disciplines-là. Donc là après moi je suis pas un expert de cette approche, de cette discipline, mais disons qu'il y a, voilà, ça permet de, encore une fois, de se dire il y a des articles sur la manière d'envisager le corps dans les traditions ésotériques, il y a des articles sur je sais plus exactement, mais il y a sur la radiesthésie, c'est-à-dire
il y a un article qui a l'air incroyable sur un type début du 20e eugéniste qui pratique le yoga, naturopathe et tout.
Ouais.
Un délire.
Ouais, il y a eu Mexique. Il y a eu beaucoup de. Ouais. En Allemagne aussi, il y a eu énormément d'hybridation assez étrange. Voilà. Et donc là, l'idée, encore une fois, c'est de faire de l'histoire. C'est-à-dire que... Et je pense que c'est un peu ça qu'on va toujours essayer de faire dans la revue. C'est que c'est des sujets qui sont, on pourrait dire, un petit peu glissants. C'est des sujets compliqués. C'est des sujets où on est vite dans, dans l'approximation. Et donc là, le but, c'est là où c'est important d'avoir des comités de relecture pour vraiment vérifier que tout est sourcé, tout est précis. Tout est historiquement validé. Il y a pas de, c'est pas des ouvrages qui sont prescriptifs. Hein. C'est, l'idée, c'est pas de donner les clés de la méthode de médecine ésotérique. Le but, c'est vraiment de réfléchir en fait sur ces pratiques-là pour aussi casser un peu toutes ces fausses illusions, enfin un peu l'illusion qu'on a toujours en fait sur beaucoup de pratiques en se disant ça a toujours été comme ça. C'est des choses qui, le côté un peu cette fausse idée des grandes traditions transmises, là ça permet vraiment d'historiciser chaque type de médecine, chaque cas. Donc c'est un peu dans ce sens là qu'on a travaillé. Numéro 4, alors là c'est un numéro que j'aime beaucoup, c'est Science et magie au féminin. Donc là là il y a eu le choix éditorial, ça a été de se dire bon, déjà l'ésotérisme on connaît pas bien, c'est un peu compliqué, etc. Et alors en plus le problème c'est que les femmes en ésotérisme c'est encore moins connu. Et puis il y a besoin. Là le choix qui a été fait, c'est, alors c'est pas forcément des rôles modèles, parce que y a pas forcément cette idée d'avoir des modèles, mais c'est de se dire on a envie d'incarner la chose. On a envie vraiment de donner des grands portraits. Enfin c'est pas des portraits au sens, c'est pas des portraits biographiques. Il y a une partie biographique, mais à chaque fois il y a des questions profondes, quoi. Mais par la biographie, l'idée c'est d'aller chercher des questions épistémologiques. Et donc il y a
ouais, dans le journalisme on parle d'incarnation.
Ouais, voilà. Bah, c'est ça.
Incarné.
Ouais, c'est vraiment incarner les problématiques. Et donc, par exemple, il va y avoir un travail sur Marie de Gournay, donc qui était l'éditrice de Montaigne, enfin, et puis qui avait un lien familial avec lui, sur la question de l'alchimie sceptique. C'est-à-dire, là, on est sur une sorte d'hybridation entre, on va dire, un savoir alchimique, un peu chimie, et puis en même temps des problématiques épistémologiques, parce que c'est aussi à travers ça, elle essaie de développer un rapport au monde spécifique avec une composante sceptique assez forte. Donc ça, c'est par exemple, c'est le premier article.
Moi, j'ai beaucoup aimé pas mal de portraits de femmes dedans, ouais. Aussi parce que du coup, c'est des femmes assez fortes en fait, ouais, qui se retrouvent à être confrontées à des époques assez complexe, à un monde d'hommes, et qui se retrouvent en fait à devoir avoir un sacré caractère et du coup à devoir prouver des choses, et du coup pour les prouver, à avoir des protocoles, à avoir de pouvoir montrer en fait ce qu'elles savaient faire, et du coup à devoir être très rigoureuses, ce qui les amène du coup à la limite de la science, à des époques où c'était pas évident en fait.
Mais en fait, c'est des auteurs ou autrices, je sais pas, vous les appellerez comme vous voulez, mais c'est vraiment cette idée de dire elles ont produit des œuvres. Tu vois, ça c'est aussi important, c'est de dire on les lit en fait comme on lirait n'importe quel auteur, et donc on a accès à leurs œuvres. Alors avec aussi des choses un peu intéressantes, parce que ça permet aussi d'avoir des, par exemple le deuxième article c'est sur maman, enfin là j'ai oublié son nom, mais je m'en excuse. Ouais, donc qui était la.
Tu redis, parce qu'il a pas dit dans le micro,
parce que je la connais.
Madame
que
Laurette, ça.
Tu veux dire le portrait?
Ouais, parce que là j'ai plus son nom en tête.
Françoise Louise Éléonore de la Tour.
Voilà.
Donc qui était plus connue sous le nom de Madame de Warens.
C'est ça. Et donc qui elle était en gros la mère adoptive de Rousseau. Donc là, on est au cœur de la pensée du 18e, hein. On est au cœur des Lumières. Et donc, elle avait un rapport à l'alchimie spécifique, un rapport aussi aux secrets médicaux. Donc elle baigne là-dedans. Et alors, l'hypothèse qui est développée dans l'article, c'est qu'elle transmet à Rousseau ce goût pour la chimie. Et donc là, on voit bien une forme d'initiation chez un des penseurs les plus importants du 18e. Donc,
ça me fait penser à Sleepy Hollow. transmission entre la sorcière et le fils qui sera un scientifique, donc le personnage d'Ichabod Crane de Tim Burton dans Sleepy Hollow. Il est scientifique et vraiment, attaché à la raison, vraiment, tu vois.
Et elle lui montre des tours de magie.
Et donc on retrouve ce lien, enfin cette filiation entre la mère qui transmet des tours de magie et qui se fait d'ailleurs éliminer pour cela dans le film. Hein,
oui, parce qu'elle emprisonne l'oiseau dans la cage.
Voilà, c'est ça. Et son fils qui lui, par contre, sera un scientifique. Rousseau.
Rousseau, par exemple, il y a dans l'Émile, il décrit des illusionnistes, parce que il décrit en fait la manière justement dont la science se vulgarise à l'époque.
D'accord.
Donc il y a des grandes pages de Rousseau sur ce qu'on appelle le signe ingénieux, qui est un petit signe qui peut se déplacer en fait.
Dans quel bouquin de Rousseau ça ?
Je crois que c'est dans l'Émile.
Ah dans l'Émile, oui, dans l'Émile.
Je pourrais trop donner les détails, mais. Donc il y a ce petit signe qui peut se déplacer, qui impressionne forcément les foules, les gens innocents, etc. Et en même temps, c'est l'usage de l'aimant, et ça permet d'expliquer que voilà, ça c'est un peu la vision pédagogique, encore une fois, que peut amener l'illusionnisme et l'émerveillement en science. Donc ça, Rousseau est une figure assez intéressante pour nous. Et puis un portrait que j'aime beaucoup, parce qu'en plus, voilà, ça c'est un peu le petit bonus de ce numéro-là, c'est qu'on a publié en fait toute la correspondance qu'on connaît de Lenormand.
Donc oh, Lenormand.
Lenormand, c'est...
Pareil, il a créé un tarot, lui.
Alors, lui, elle. Mademoiselle Lenormand...
Ah, mais oui, c'est vrai.
Elle n'a pas créé un tarot. C'est un article très intéressant, parce que c'est un article qui va justement balayer un certain nombre de mythes.
Ah.
Parce qu'en fait, Mademoiselle Lenormand... elle est présentée, on va dire d'une manière générale, comme la grande cartomancienne du 19e siècle.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Ce que montre Antoine Leduc, c'est qu'en fait, ça n'est pas qu'une cartomancienne. C'est quelqu'un qui possède en fait la totalité des arts divinatoires et qui va tous les pratiquer. Et donc, il n'y a pas un art plus qu'un autre. Donc, en fait, elle est au courant, on va dire, de l'ensemble des pratiques. Et puis, en fonction de ce qu'elle a besoin de faire, elle utilise ça. Mais surtout, en fait, ce que Antoine montre, c'est qu'elle va utiliser, en fait, le somnambulisme. En gros, c'est-à-dire une... Enfin, après, est-ce qu'elle le fait vraiment, est-ce qu'elle le fait pas? Ça, c'est un autre débat. Mais donc, elle utilise l'idée d'un état modifié de conscience... ou on pourrait dire une auto-hypnose, ou en tout cas se mettre dans un état d'extra-lucidité, de voyance, pour ensuite pouvoir porter une parole politique. Et donc là, alors, Mademoiselle Lenormand est plutôt royaliste, légitimiste, mais elle va vraiment utiliser le canal, le médium de la voyance pour... de manière forte, prendre à partie les grands du royaume, leur proposer des solutions politiques, les provoquer, etc. etc. Et puis un peu, évidemment, en se cachant derrière le... Enfin, tout ce jeu très complexe en sachant, du médium, en sachant qu'est-ce qui lui est personnel, qu'est-ce qui ne lui est pas personnel, etc. Et donc il y a tout un jeu très compliqué qui se met en place. Donc c'est un peu l'une des premières à le faire. Après, il va y avoir d'autres médiums au cours de l'histoire, mais elle, c'est vraiment très très important parce que c'est assez tôt, on est vraiment dans la première moitié du 19e siècle. Et donc il y a vraiment ce côté à la fois revendication politique, il y a un côté d'auteur très important parce qu'elle publie énormément de livres. Donc c'est vraiment une auteure à part entière, et puis toute cette connexion, parce que là dans les rapports de police on va la voir en connexion avec toute la cour, avec tous les donc elle connaît quand même pas mal de choses, même si Antoine revient un peu sur des sur la sa fameuse connexion forte avec l'impératrice Joséphine, donc là où Antoine montre que c'est quand même sans doute moins important que ce qui a été en réalité.
Que le mythe, Lenormand.
Lenormand a besoin de se montrer comme la confidente de l'impératrice, etc.
D'accord.
Normal, il faut bien se vendre. Tu vois.
D'accord, ouais.
Et donc à la fin, on a édité, il y a 44 lettres, 44 lettres, donc pas toutes inédites, mais quasiment toutes inédites, où vraiment on peut la découvrir dans ses relations intimes avec un certain nombre de gens. Alors il y a des lettres plus intéressantes que d'autres, mais il y a notamment des lettres où elle va décrire les opérations magiques qu'elle réalise pour Bagration, je crois, pour une comtesse. Et donc là vraiment on est vraiment au cœur du truc, quoi. Et c'est des documents qui sont tout à fait inédits, quoi. Donc là ça donne vraiment un lien physique avec ce type de...
Mais quand c'est inédit comme ça, c'est quoi la source?
Bah c'est les lettres.
Donc en fait les lettres elles-mêmes, donc l'universitaire doit les faire porter à la Bibliothèque nationale de France par exemple.
Ah, non, il y en a beaucoup en collection privée. Enfin il y en a dans les sources là, il y a Archives nationales, il y a différentes bibliothèques européennes qui conservent des fois une lettre par exemple.
Et elles sont authentifiées.
Elles sont authentifiées. L'écriture est caractéristique. Voilà, il y en a en collection privée, il y en a un certain nombre en collection privée. Il y en a.
Faut les transcrire aussi. Parce que des fois c'est un peu illisible, quoi.
Ouais, mais ça c'est le travail qui a été fait. Ouais. Donc il y a eu un travail de
c'est toujours illisible.
Bah, ça dépend l'écriture. Voilà, il y a bon des courage, extraits qui sont reproduits. Alors,
tu parles dans les micros, hein, parce
même
que...
mon grand-père j'ai du mal à le relire.
Non, ça va, elle écrit bien.
Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait en fonction de savoir à qui elle écrit, c'est si elle écrit.
Vache, elle écrit super bien.
Quand elle écrit à sa bonne, c'est pas du tout lisible. Et par contre, quand elle écrit, là, si je sais pas laquelle vous regardez, mais quand elle écrit au roi, bah là, effectivement, c'est très lisible, parce que tu vois, il y a tout ça, quoi. Donc, ça permet de découvrir aussi un peu l'arrière-plan de
tout. Les augures sont toujours plus clairs pour l'impératrice.
Exactement. Et puis, il y a aussi un bon papier de Stéphanie Peel sur ce qu'elle a appelé les féministes. Ça c'est une petite,
un petit jeu de mots d'ailleurs, les fées plus loin, ouais. Ministes.
donc là Stéphanie évoque trois figures de la fin du 19e siècle en montrant justement comment chacune de ces femmes, avec des différences assez importantes entre elles, mais vont traiter la question de la nature, vont traiter la question de la surnature, et vont vraiment, en tant que à la fois journaliste, médium, tu vois, vont se situer dans un cadre de la fin de siècle, tu vois. Donc c'est tout ça. Voilà.
J'ai un ami qui s'appelle, enfin un pote, une connaissance qui s'appelle Laurence Rasson, qui avait participé à certains de podcasts de la cellule, et son épouse s'appelle Caroline Duban, et elle a écrit un livre qui s'appelle L'Homélie des sorcières. Et dans le même exactement, je sais, en plus c'est vieux, L'Homélie des sorcières, je sais plus quand ça date, mais voilà quoi, pour réhabiliter en fait la figure de la sorcière comme étant en fait une femme forte de son temps, on va dire, parce que avec des engagements politiques qui sont marginaux, avec des engagements scientifiques qui sont marginaux, etc., etc. Et ça me fait beaucoup penser à son travail aussi. Voilà. Donc la collection c'est fini là, j'ai tous les livres. Hein.
Alors,
j'ai tous les livres.
T'as tous les livres qui sont sortis. Donc là, je viens d'envoyer à l'impression le numéro 5. Qui sera consacré à science, art et magie. Donc on a un article sur le tarot, un article sur les jardins de Bomarzo, le parc des monstres en Italie, avec tout un tas de sculptures fantastiques, un jardin qui date du milieu du 16e siècle.
C'est une exclue la cellule, là, t'es en train de nous faire un
teaser. Bah oui, après, voilà, ça va bientôt paraître. Mais,
D'accord.
Donc là, l'idée, c'était de traiter l'art, de traiter, on va dire, la manière dont l'art peut porter... des contenus qui ne sont pas dans les textes. Tu vois, c'était ça qui nous intéressait. C'était nous dire,
ça m'intéresse,
on est
beaucoup.
Tous centrés sur des textes, parce que voilà, parce que c'est plus simple, parce que le sens est univoque, enfin plus ou moins. Et donc la question, c'est comment l'art interagit. Donc on a un article sur le tarot.
Et puis l'art peut transmettre aussi.
Exactement.
Ça m'intéresse beaucoup.
Donc ça c'est le prochain numéro.
Est-ce que vous avez des remarques, les Valentin, Flavie? Ouais, toi, t'as... Moi, j'ai.
Moi, je trouve ça fascinant, c'est trop bien. Je feuilletais pendant que donc les auditeurs ont pas pu voir, mais je feuilletais tous les livres pendant l'explication. Bah, c'est fascinant, ça donne envie de lire en détail, de se plonger, de.
C'est trop bien. Hein.
De regarder, ouais, de fouiller, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est trop génial.
Ah, pour moi, en avoir lu, du coup. Moi, ce que j'aime bien, mais en plus, bon, moi, il s'avère que j'adore la Renaissance, voilà, et le Moyen-Âge. Donc moi, d'un point de vue esthétique, du coup, j'y retrouve beaucoup de choses. Je ne me suis jamais cachée. En plus, moi, j'adore toute l'esthétique de la ritualisation de la sorcellerie, la magie, tout ça. Et du coup, moi, ça me fait plaisir aussi ce que montrent les livres et qui me fait plaisir, c'est souvent, en fait, quand tu dis que tu es intéressé par la sorcellerie, etc., les gens disent « Ah bah du coup, tu crois pas à la science. » Comme s'il y avait une dichotomie complète qui faisait que si tu croyais à ça, tu croyais pas à l'autre, en fait. Et ce que j'aime dans ces livres, c'est qu'on voit bien qu'il y a des ponts, en fait, et que c'est pas parce que tu vas croire à la science que tu peux pas croire à la sorcellerie et vice-versa. Ouais. Et qu'en plus, il y a des esthétiques vraiment communes. Et en fait, moi, je crois vraiment à la recherche de l'esthétique dans la vie de chacun. Et que la majorité des croyances qu'on a, en fait, sont liées aux esthétiques qui nous touchent. Et ce que montrent, en fait, ces livres, c'est que la science et tous les contenus ésotériques ont un esthétique commun qui montre pour moi, en fait, que si tu crois à l'un, bah, tu crois aussi à l'autre.
Est-ce que la question même de la croyance est encore pertinente ?
Ouais, mais je ne crois pas non plus. Mais voilà, c'est juste, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Et c'est ce que ces livres montrent, et que c'est pas, et qu'il y a un vrai esthétique autour qui est très intéressant.
Il y a une réconciliation, en fait, entre les deux champs.
Ces livres essayent de réouvrir la question, tu vois, de... Alors, ce que moi j'appelle la circulation des savoirs, c'est un peu facile, mais cette idée de dire il n'y a pas deux traditions qui ne se parlent pas depuis le début. En fait, ça ne cesse de s'hybrider. Et ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Ça, tu vois, c'est un peu la thèse de Pierre Lagrange, que j'aime bien, qui est de dire ça ne veut pas dire que les régimes de savoir sont les mêmes. Mais ça veut dire... Et nous, on montre les hybridations de manière peut-être encore un peu plus nette, parce qu'on vraiment, on travaille à cette surface, à cette frontière poreuse entre les deux. Mais l'idée, c'est quand même de dire, ça veut pas dire que c'est la même chose, mais voilà, ça se touche, ça fonctionne ensemble. Et tu vois, dans les prochains numéros, il y a celui qui va paraître là, il y a l'appel à texte qui a été fait sur... la mémoire, enfin les arts de la mémoire et les arts du secret, donc là qui paraîtra l'an prochain. Et puis là, on vient de lancer là, hier, l'appel à texte du numéro, donc que je dis pas de bêtises, de numéro 2026. Et le numéro 2026, il est sur l'alchimie entre science et magie. Et là, on est vraiment au centre du débat. Quoi.
Ouais,
et cette idée de dire, donc qui est dirigé, avec un numéro qui sera dirigé par deux chercheurs en alchimie. Et là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, en fait, comment a émergé la légende noire de l'alchimie. C'est cette idée. Alors là, le numéro n'est pas encore fait, donc je ne peux pas vous répondre. Je peux pas répondre à la question, mais il faut la poser. Déjà, c'est le premier pas. C'est de dire, finalement...
Qu'est-ce que tu appelles la légende noire de l'alchimie ?
Bah, ça, c'est nos camarades qui ont écrit l'article. Mais l'idée, c'est de dire l'alchimie est une science qui est assimilée à la magie, qui est une science un peu bizarre, un peu néfaste, qui ne comporte pas d'éléments scientifiques, c'est des dingos, etc. etc. Mmh. Ça, c'est la légende noire de l'alchimie. Et tout l'enjeu de cet appel à texte, alors on n'a pas encore reçu des propositions, on vient de le lancer, avis aux chercheurs, mais l'idée, c'est dans les grands axes qu'on propose, c'est d'essayer de comprendre, en fait, d'où l'alchimie vient. En gros, je pense, alors là, pareil, hypothèse, mais disons qu'il y a trois matrices qui va essayer de falloir démêler les fils. Il y a une matrice qui va être, on pourrait appeler scientifique, pré-scientifique si on veut. Il y a une matrice qui est spirituelle, et il y a une matrice qui, elle, pour le coup, est effectivement peut-être magique. Et donc il y a un peu, l'alchimie est toujours un peu prise historiquement, hein, depuis l'Antiquité, la relecture par les penseurs arabes, enfin tout ça, donc cette grande histoire. Et puis après, la question, ça va être de se dire, bon, essayons d'étudier les condamnations peut-être de l'alchimie au Moyen-Âge, essayons de regarder ce qui s'est passé à ce moment-là, à quel moment ça a basculé, qui a fait basculer, c'est-à-dire est-ce que tout d'un coup les théologiens ont condamné, et puis en même temps il y avait des praticiens ou même des ce qu'on pourrait appeler des philosophes naturels, des physiciens qui continuent à travailler l'alchimie comme une science légitime. Donc on va essayer de démêler un peu tout ça, en gros, alors depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, mais avec cette hypothèse de se dire aujourd'hui l'alchimie est une science décriée, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des survivances, est-ce qu'il y a eu des moments où des auteurs alchimiques ont mobilisé le champ de la magie, ça c'est une question, tu vois, c'est est-ce qu'ils se sont tirés eux-mêmes une balle dans le pied ou pas. Enfin, il y a toutes ces questions-là. Et puis, en sachant qu'en disant ça, là, je prends parti implicitement.
Bien
mais,
sûr, ouais, ouais.
Mais c'est juste pour rendre le message un peu clair.
Un peu clair, ouais, ouais.
Mais tu vois, et donc, et vraiment, c'est voilà. Donc ça, là, on vient de le lancer. Donc, on espère qu'on aura. Ça aussi, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans les revues, c'est à chaque fois d'avoir des vieux chercheurs expérimentés, des grands noms, et puis des jeunes chercheurs. L'idée, c'est, ça je l'ai pas forcément dit au début, mais c'était implicite, mais cette idée de dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'espace dans l'espace francophone de publication. C'est-à-dire, vous êtes un jeune chercheur en sciences secrètes, magie, alchimie, tout ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit où publier. Et donc ça, nous, on a essayé de faire exister l'espace où on pouvait publier, donc ça déjà ça permet aux jeunes chercheurs de faire connaître leurs travaux, etc. Et puis aussi, nous ce qui nous intéresse c'est de créer un espace où ça va pouvoir rentrer en dialogue, tu vois, c'est-à-dire dans chaque numéro, il y a ce dialogue qui naît de lui-même par la thématique entre les articles, on peut comparer, généralement on choisit on répartit les articles de manière chronologique, ce qui évite tout un tas de problèmes, mais au moins ça permet d'historiciser un peu, de se dire ah tiens ça c'est marrant, etc., etc. Ouais. Donc voilà un peu le...
Potentiellement dans 10 ans, 20 ans, il y aura des réponses au premier arcana, je réagis à l'article de machin,
c'est ce qu'on, encore une fois, c'est cette logique de la citation de notre camarade Martinoli,
ouais,
tu vois,
Pascal Martinoli.
Cette idée de dire pour qu'une science émerge, il faut aussi qu'elle soit autoréférentielle. Donc là, il y a, c'est un peu avec
oui, parce
il
que
y a
c'est
des risques
discussions,
aussi.
Oui,
mais c'est aussi cette idée de dire il faut que ça se constitue.
Il faut qu'il y ait un maelstrom.
Voilà, il faut qu'il y ait un maelstrom, exactement.
T'avais une
remarque. Ouais, j'ai une question en fait sur le champ de recherche dans son ensemble.
Oui, ouais.
Et sur le rapport à la publication et au texte. C'est ce que tu as dit un peu en intro, que il y a des gens qui sont dans l'occultisme, on va dire populaire, quoi.
Ouais, j'ai pas, ouais.
Et en fait, je suis super curieux de savoir comment est-ce que tous les gens qui publient là dans cette revue, comment est-ce que leur travail est reçu. Est-ce qu'il y a des gens qui confondent complètement les registres, est-ce que c'est un vrai problème, est-ce que c'est marginal,
c'est multiples questions. Alors il y a plein de trucs, et puis en plus il y a les questions auxquelles j'ai pas répondu que t'as posé en intro
sur le champ,
ouais. Pour le dire très vite, je l'ai expliqué pendant suffisamment longtemps, mais nous c'est histoire des sciences, hein, pour le dire un peu vite, histoire des sciences et histoire des sciences secrètes, etc. Donc ça c'est l'angle qu'on a. Et après il y a d'autres types en fait d'approches, parce que ça, la voie qu'on défend, pour le coup, elle est dans le monde francophone, c'est sûr qu'elle est seule, mais même dans le monde en global, elle est un peu solitaire, parce que souvent, comme je le disais au début, en fait, les chaires, notamment, elles sont souvent liées aux études religieuses. Et puis tous les chercheurs, on va dire en ésotérisme, globalement, ce sont des chercheurs en études religieuses. Donc souvent, il y a cette, tu vois.
Après, t'as quand même une grosse communauté d'historiens des sciences, quoi.
Ouais, mais ils travaillent pas trop sur l'ésotérisme.
Ok. Ah, je pense.
Alors ils travaillent un peu. Alors non, mais t'as raison. Par exemple, tu vois, il y a un groupe de chercheurs à Paris qui travaillent. Là, c'est plutôt des chercheurs en médecine qui vont travailler sur le magnétisme, mesmérisme, somnambulisme. Donc ça, très intéressant. Qui a un sujet pas très connu et ultra intéressant. En gros, qui va couvrir fin 18e, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 19e siècle. Et c'est ce moment d'hybridation. C'est pas d'hybridation, c'est un moment historique très intéressant qui va donner lieu ensuite à l'hypnose, au spiritisme, à beaucoup de choses, à un rapport autre au corps, c'est les théories fluidiques, etc. Donc là il y a des historiens des sciences plutôt médicales qui travaillent là-dessus, parce que c'est très connecté à l'émergence aussi de la psychanalyse après, voilà. Donc ça, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, historiens des sciences qui travaillent sur l'occultisme, ésotérisme, il y en a un peu à la Renaissance, oui, parce qu'en fait c'est très connecté, après moins. Et surtout dans le monde anglo-saxon, parce que chez nous c'est quand même pas, même s'il y a, tu vois, il y a le bouquin où Pierre Lagrange avait participé, il y a deux trois trucs, hein. Mais disons que c'est pas très bien structuré.
L'ésotérisme contemporain et ses lecteurs, entre savoir, croyance et fiction,
ouais,
préface,
voilà.
De Daniel Fabre, Claudie Voisenat et Pierre Lagrange,
ouais. Et donc là il y a l'angle,
ça vaut 70€, tiens, pour info, parce que tout à l'heure on parlait des prix des livres, ouais. Aussi en dehors en préparation d'émission, on disait qu'un Arcana Naturae c'est
30€, ouais.
Et donc là, et on disait, dis donc, c'est pas si cher pour celui-là, moi je l'avais eu à 70 euros, alors que son prix de vente initial est de 25 euros. Hein.
La vache.
Voilà, donc
l'inflation.
Et je l'avais eu à 70, je crois. Ouais, bah parce que c'est ultra rare en fait. Ouais. C'est un livre super.
Donc sociologie aussi, pas mal. Anthropologie, sociologie. Tu vois, par exemple, j'ai des camarades et des collègues qui vont notamment une Yael Dansac qui travaille à l'Université libre de Bruxelles aussi et qui elle fait de l'immersion dans les milieux néo-païens. Donc ça c'est ultra intéressant. Donc là c'est vraiment du contemporain pur, c'est comprendre en fait comment se structurent aujourd'hui les rituels, les mouvements néo-païens, surtout en Angleterre, Royaume-Uni. Donc voilà, donc là il y a vraiment les approches de terrain en anthropo. Et puis après le gros des troupes, ça va être pas mal de, par exemple chez Wouter and Graf, il y a c'est marrant parce que l'ésotérisme académique réfléchit beaucoup sur lui-même aussi, tu vois, cette idée de dire on a besoin de produire des livres sur la question de l'ésotérisme dans le monde académique. Donc il y a des livres qui sortent un peu en place parce que là je sais pas exactement, mais je pense qu'ils ont peut-être 50 ans, ils commencent à avoir, tu vois, un peu de retour, même s'il y a peu de gens, voilà,
un peu de réflexivité, quoi,
tu vois, pour avoir de la réflexivité sur le champ, montrer les questions émergentes par la place des femmes, ce type de choses dans ce type d'études. Donc tout ça c'est des questions émergentes. Il y a des bouquins qui sortent, monde anglo-saxon à chaque fois, tu vois, new approaches for esoteric studies, etc., ce type de titres qui émergent aujourd'hui et puis donc voilà les grandes lignes. Et puis après il y a pas mal de réflexions sur l'hermétisme, tu vois, avec cette idée de réfléchir aux traditions hermétiques. Ça, Wouter and Graf travaille un peu là-dessus, avec cette idée d'être dans une approche tu vois, de questionner tout le côté comment ça transmet, comment on interprète, tu vois, parce que l'hermétisme c'est aussi une grande école de l'herméneutique, tu vois, parce qu'à chaque fois tu as des textes qui sont normalement cryptés, enfin tu vois, c'est pas forcément ce que nous on travaille, mais disons que ça peut être une des composantes importantes de se dire il y a des traditions un peu secrètes, des textes cryptés qu'il faut décrypter, donc il faut apprendre à lire ces textes là tu vois. Donc ça c'est un champ, je pense que c'est un champ de recherche. Et puis après il y a aussi des gens, par exemple un auteur important qui s'appelle Partridge, qui va travailler lui sur toutes les dimensions contre-culturelles, tu vois, et là on est plutôt sur de la sociologie ou de l'histoire à court terme, sur la grande bascule des années 60-70 que Pierre Lagrange évoquait aussi.
Ouais.
Alors après, Pierre Lagrange en France, Partridge plutôt dans le monde anglo-saxon, et avec des phénomènes extrêmement intéressants sur lesquels j'ai un peu travaillé, comme par exemple l'émergence de la Wicca dans les années 50. Tu vois, donc on a une religion mondiale qui naît comme ça en quelques années, enfin tu vois, tout un tas de phénomènes liés à la contre-culture, les ovnis, enfin tu vois, la manière dont ce que terme important que Partridge a posé, enfin c'est pas lui qui l'a posé, mais disons que c'est lui qui l'a popularisé, c'est la notion d'occulture. C'est cette idée de dire les cultures il y a une contre-culture ésotérique ou occultiste finalement, mais qui fait culture, c'est-à-dire et qui va rassembler de manière un peu bizarre et un peu hétérogène tout un tas de champs, l'astrologie, les ovnis, les spiritualités, tu vois, de l'Est, enfin au sens bouddhisme.
Le jeu de rôle, c'est pas un peu ça ?
Alors je pense que le jeu de rôle, il peut se connecter.
C'est un truc d'ingénieur scientiste, le jeu de rôle.
Non, okay. Bah non,
sociologiquement,
parce que...
je veux dire.
Ok, oui, peut-être. Oui, t'as raison, sociologiquement, plus t'as raison. Mais tu vois, dans l'état d'esprit.
C'est Néphilim, tu vois.
Voilà.
Ça, c'est Néphilim. Voilà. Néphilim, c'est l'occulture dans
c'est
le JDR.
Même l'occultisme,
Toulou,
quoi.
Même Cthulhu, ouais. Hein.
L'occulture, là, il y a une vraie question.
Oui, c'est joué à l'occulture, tu vois. T'as raison. C'est un peu joué à ça.
Il y a une vraie question sur la contre-culture et son degré d'ironie par rapport à ce qu'elle pratique, tu vois. Ça, c'est un peu c'est ouvert, hein, mais...
Ouais. Je peux te jurer qu'il n'y a pas ce recul-là des joueurs de Néphilim, hein. Pour en connaître certains.
Ou de sens.
Bon, encore moins de sens. Hein. Alors là, parce que là, le jeu ne veut pas de recul, donc... Tu vois, alors que Néphilim, il y avait quand même un côté lisez le pendule de Foucault à la fin du livre, quoi. Enfin, il y avait un côté, je crois que le livre lui-même, je crois que le jeu lui-même invitait à le faire. Enfin, je sais pas, Yann Sully l'a fait en tout cas. Mais
ça dépend quelle édition.
D'accord, ok. Mais voilà, c'est, tu vois, oui, eh ben
non,
mais c'est important
de dire le cultiste.
Non, non, mais ça, c'est, oui, c'est très intéressant.
Donc voilà un peu, j'espère avoir répondu à
ouais, ouais, bah le paysage en tout cas, je trouvais fascinant, beaucoup plus clair, c'est très intéressant.
Moi, j'ai une question, mais alors je sais pas si elle est à côté de la plaque ou pas. je trouve qu'il y a une tension dans ce travail de ouf, qui est de dire je veux réhabiliter le champ de l'occultisme et de l'ésotérisme comme en gros un élément de la controverse scientifique d'une façon générale.
Ouais.
Voilà. Mais en même temps, dans sa publication, je souhaite faire des papiers universitaires avec un critère de scientificité très moderne et universitaire moderne. Et j'ai un regard un peu, je lâche le mot, un peu méprisant. À l'encontre des gens qui aujourd'hui sont considérés comme des zinzins dans les bibliothèques chez Cultura. Y a un truc un peu bizarre, non ? Il n'y a pas une tension là ? Parce que c'est-à-dire que tu fais en fait aujourd'hui, en créant en fait un espèce de grand partage entre d'un côté des revues scientifiques étayées par des pairs à double lecture, etc., à double aveugle, en lecture en double aveugle, pardon, et une espèce de séparation avec les gens qui font de l'ésotérisme zinzin aujourd'hui. Est-ce que cette espèce de partage-là, c'est pas précisément celui que tu cherches à condamner pour le passé ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?
Non, mais c'est une très bonne question.
Est-ce qu'il n'y a pas une petite tension là, monsieur ?
Et toc.
Non, mais après, je sais pas s'il faut que je te dise un oui franc et massif ou s'il faut que je réfléchisse. En fait, il faut reprendre le problème, c'est-à-dire, faut pas se tromper. Tu vois, je voudrais pas dire de bêtises. Est-ce qu'il y a une tension ? Oui.
Oui.
Est-ce que c'est... En fait, le problème, c'est que c'est pas exclusif. Dans le sens où, nous, la revue qu'on produit... Alors, il y a plusieurs éléments. Effectivement, la structure de la revue, ça, on en avait discuté rapidement avant, mais effectivement, elle neutralise les contenus. Ça, c'est un vrai
truc. Ah, alors ça, il faut que tu nous parles de ça.
Mais, en même temps... c'est un mouvement très intéressant, parce que... je sais pas si je vais réussir parce que je sais pas si c'est clair dans ma tête.
J'adore faire ça. C'est-à-dire que je pose les questions les plus chiantes à minuit.
Oui, mais c'est
comme
pas grave.
Ça,
c'est pas grave. C'est ce qu'il faut. C'est le mot.
Ça. En plus, scientifique à chercher, c'est ça.
Comme ça, tu es dans un état un peu transformé de conscience et c'est ça qui va sortir.
D'habitude, on les fait boire.
C'est l'heure fatidique où il faut tout jouer là, tu vois.
Bah, y a un truc pour te venir en aide.
À mon avis,
il y a un élément de réponse que t'as donné, c'est que c'est déjà, je pense, problématisé, notamment par des gens qui font de la sociologie dans ton champ, de ce que t'as dit, qui sont réflexifs.
Mais nous, on fait de l'histoire là.
Oui, bah, bien sûr.
Et
mais
ça,
ce que je veux dire, ça
change.
Ouais, mais.
Et en même temps, face aux matériaux de l'ésotérisme lui-même, l'histoire, c'est toujours très important. Et alors là, tu vois, je veux pas me perdre, je veux pas surtout pas éviter ta question. Plusieurs éléments de réponse. Je dis qu'à la fois ça rend les contenus.
Alors ça, il faut que t'expliques. Qu'est-ce que ça veut dire que la revue neutralise les contenus.
Ça c'est une hypothèse que je fais. Je pense qu'évidemment les gens seraient pas forcément d'accord avec ce que je veux dire. Je pense que ça, en fait, notre travail historique, il fait deux choses. À la fois, il va rendre les contenus vachement précis, accessibles, tu vois, tout est extrêmement sourcé et tout. Mais du point de vue de quelqu'un qui viendrait chercher un enseignement ésotérique dans la revue, il ne le trouverait pas. Et c'est ça que j'appelle neutraliser les contenus. Au sens où la gnose, au sens la connaissance transformatrice, elle n'est pas dedans.
Oui, mais il y a les bibliographies,
elle
tu peux aller voir.
Ah oui, bah
là,
non,
tu pourrais le trouver ton contenu.
Effectivement, mais non. Justement, tu vois, nous, on a des chercheurs qui sont des chercheurs en histoire des idées. Et quelque part, c'est un peu, si j'étais taquin, mais c'est pas du tout contre toi pour une fois, c'est de dire c'est la différence entre histoire de la philosophie et philosophie. Nous, on fait de l'histoire de la philosophie, de l'histoire des idées. C'est-à-dire que notre rapport au contenu, là, il est mis à distance et il est historicisé. Et quand tu historicises des contenus, quelque part, tu les mets en tension, tu vois.
Attention à ton micro, parce que là, t'es en train de t'éloigner.
Par exemple, il y a des travaux aussi de Blumenberg sur l'historicisation des métaphores au cours de l'histoire, où Blumenberg explique que dès que t'as pris conscience, en fait, par exemple, que le rapport à la vérité, il était toujours médié par des métaphores, etc., en fait, dès que t'as pris conscience de ça, tu peux plus utiliser la métaphore dans son plein potentiel de rapport au monde, de rapport à la vérité, et Blumenberg montrait que à chaque époque avait ça, finalement, ça, c'est une grande métaphore pour accéder à la vérité. Enfin, tu vois, ce type de choses. Et quelque part, quand tu rentres dans le grand parcours historique, bah, t'es obligé en fait de montrer que les concepts ils évoluent, t'es obligé de montrer qu'ils sont liés à des gens, à des auteurs, tu vois. Et quelque part, ils perdent leur charge, voilà.
Enfin, c'est la différence entre la photographie et le cinéma. C'est-à-dire que dans un cas, toi, tu fais des photographies d'un état de l'art à un instant T.
Nous, c'est quand même très dynamique. Tu vois, l'idée, c'est d'avoir des. On est quand même sur une séquence historique.
Universitairement parlant, c'est dynamique.
Oui, oui, bien
mais
sûr.
Mais esotériquement, c'est pas dynamique.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, le maelstrom de l'ésotérisme est mort dans Arcana Naturae.
Alors, oui et non.
On en fait des photos à un instant T, mais le maelstrom, vous ne discutez pas d'ésotérisme entre chercheurs, vous discutez d'historicité, de problématiques universitaires.
Ouais.
Voilà,
ouais, ouais.
C'est pour ça. C'est ça que c'est la neutralisation.
Et en même temps, quelqu'un qui veut, et c'est là où tu vois, c'est là où je serai en tension avec nos amis qui vont dans les librairies ésotériques, plutôt dans le rayon développement personnel de certaines librairies. C'est-à-dire que cette revue-là, elle leur offre un rapport à la tradition, et ça c'est extrêmement important parce que si tu veux, alors je veux pas dire de bêtises, j'avais dû me noter ça dans un carnet, mais le Antoine Fèvre, il proposait, alors c'est très discuté, j'en suis pas forcément tous d'accord avec lui, mais parce que c'est posé la question de la nature de l'objet. Enfin, c'est depuis longtemps, il y a ces fameux chercheurs qui cherchent sans trouver. Et donc, ils se disent, il faut quand même définir ce qu'on appelle l'ésotérisme, tu vois. Parce que sinon, comment on peut rassembler des pratiques très diverses sous ce terme-là? Parce que, en tant que tel, il n'y a pas d'ésotérisme, il n'y a que des pratiques ou des filiations intellectuelles qui vont se réclamer plus ou moins de ça. Et Fèvre disait, dans un petit bouquin qu'il faut lire, hein, c'est son Que sais-je sur l'ésotérisme, et il pose. Alors, il posait 4 critères principaux et 2 critères secondaires. Alors là, il faut juste que je m'en rappelle. À minuit, le premier critère, c'est les correspondances. Voilà. Donc, il dit, pour essayer d'avoir une sorte de critère un peu pour discriminer, est-ce que c'est ésotérique ou pas, il propose quelque chose. C'est quand même le gars qui a, pas celui qui a introduit, mais c'est celui qui a vraiment popularisé pendant très longtemps à l'EPHE les études en ésotérisme. Donc c'est quand même un gars qui sait de quoi il parle. Fèvre dit, le premier c'est les correspondances. Le plus simple c'est l'articulation entre microcosme et macrocosme. Voilà. Donc souvent, les contenus ésotériques, enfin disons que pour lui c'est nécessaire, ouais. Les contenus ésotériques engagent quelque chose qui va permettre de créer une correspondance entre le micro et le macro, entre...
La théorie des corps par exemple.
Par exemple. Tu vois, bon, après, là,
je donne un autre exemple, par exemple, tu vas prendre tel type de fleur pour pouvoir avoir une interaction avec Pluton.
Oui, voilà.
C'est
mieux.
Par exemple. Mais c'est plutôt le microcosme, macrocosme, c'est plutôt de se dire moi, corps, ouais. je suis en rapport avec le cosmos.
Voilà.
Et, au sens fort du cosmos, c'est-à-dire comme tout organisé, etc.
Comme les Grecs et pas comme dans Saint-Séya,
au sens de Pythagore.
Exactement.
Donc ça c'est le premier point, correspondance. Le deuxième point c'est la nature vivante. C'est-à-dire que normalement, encore une fois c'est des critères qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont intéressants. La nature vivante, c'est-à-dire que généralement les ésotéristes, ils considèrent que la nature est vivante. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle elle a sa propre personnalité, elle a une âme, elle produit des choses, etc. etc. Tu vois. Et tout ça vient en corrélation avec l'idée de correspondance. Troisième point, très important, l'imagination créatrice. L'idée qu'il y a des médiations, et finalement, alors ça c'est surtout hérité d'Henri Corbin, mais c'est cette idée de dire il y a toujours une part d'imagination au sens fort, au sens on produit des images, mais c'est des images actives, c'est des images qui transforment le monde. Et ça amène au dernier point, quatrième point, qui est de dire, le dernier point que Fèvre met en avant, je le fais sans note, hein, pour ceux qui... voilà. Le dernier point que Fèvre met en avant...
Je l'ai peut-être là-haut, le
C'est l'initiation. Il dit... Il emploie pas le terme de gnose, mais que j'aime bien, pris dans le sens d'Henri Corbin, c'est-à-dire, c'est la connaissance transformatrice. Cette idée de dire que le savoir, censément, encore une fois, le savoir ésotérique, normalement, si vous l'avez, vous êtes pas pareil avant qu'après. Tu vois ? Donc tout ça, c'est les 4 éléments fondamentaux, les correspondances, la nature vivante, l'imagination créatrice et le transformatif, l'initiatique. Et les deux catégories secondaires, c'est la transmission et la tradition. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes de transmission de ces contenus-là, et que la tradition, au sens de la philosophia perennis, au sens de la tradition avec un grand T, notamment représentée par René Guénon et d'autres, qui est de dire qu'il y a une sorte d'archi-tradition, il y a une sorte de super-méga-tradition, qui, quelque part... qui est un peu le noyau de toutes les traditions ésotériques du monde, etc., et qui est un peu le... Il y a un côté un peu syncrétiste. Et donc voilà, voilà un peu la manière dont Fèvre positionnait son champ et sur lequel il travaillait. Et alors, cette petite digression, elle me permet de revenir à l'idée selon laquelle... La question de savoir si Arcana Naturae neutralisait ou pas les contenus. Et donc, je pense que toute la dimension de transmission... Cette dimension-là, alors que Fèvre identifiait comme une caractéristique secondaire, ça, Arcana Naturae le porte. Parce que Arcana Naturae, si tu veux, restitue à celui qui est avide de savoir ces chaînes de filiation-là, et lui donne accès ensuite à toutes les sources de manière extrêmement
précise. C'est ce que je te disais.
Ces éléments.
C'est voilà. Exactement ce que je te disais.
Voilà. Ben, moi, je dis la même chose, mais en beaucoup, beaucoup plus long.
Oui, et en beaucoup plus clair.
Bah
et
ouais,
entre-temps, on a appris plein de choses sur le chemin.
C'est une connaissance qui transforme.
Tu sais que, alors que tu les rappelais, je me suis rappelé que je l'avais là-haut et que je l'avais lu, ce livre sur l'ésotérisme, et que ça m'avait passionné à l'époque. Et aussi parce que j'y voyais une très grande proximité avec mes propres affinités dans le monde du jeu de rôle. Voilà.
Je pense qu'il y a des liens forts avec le jeu de rôle. Hein.
Mais, bah, tu sais que ça fait quand même le troisième podcast ou le quatrième podcast que j'enregistre sur la notion d'ésotérisme.
Ouais, je sais bien.
Puisqu'on avait fait l'ésotérisme de Pierre Riffard avec Fabien, on a fait là l'ésotérisme avec Arcana Naturae, et on a fait l'ésotérisme avec Pierre Lagrange.
Parce que si on voulait comme ça cogiter un peu le truc, on pourrait se dire micro-macro, bah ça s'appelle synesthésie, ça s'appelle bleed, tu vois, le microcosme et le macrocosme, est-ce que c'est pas, tu vois, l'imagination créatrice, ça marche quand même pas mal.
C'est pas trop mal. Hein.
L'initiation, on peut quand même se dire que, enfin, au sens la transformation de soi à travers l'expérience d'une partie. Bon, ça. Non,
attends, il y a une thèse qui s'appelle le jeu de rôle transformatif. Il y a même le terme d'initiation qui est repris beaucoup pour parler des jeux, juste ça. Et puis le jeu de rôle traditionnel, la dimension traditionnelle du jeu de rôle,
transmission,
tradition.
Et
voilà.
Tradition.
On a tous les éléments.
On
je suis totalement d'accord.
Il y a la nature vivante, c'est plus la générativité des univers. Mais
t'as pas trop répondu sur l'intention. T'as dit il y a une tension mais... La tension entre le fait que c'est un travail d'histoire
moi
fait.
C'est un travail d'histoire
c'est,
ça.
C'est un travail universitaire surtout... dans les bouquins dont tu parles il n'y a pas de problème de bibliographie de problème de
on peut
par
se
contre,
demander
de manière un peu polémique c'est-à-dire c'est de dire le problème des ouvrages, on va dire, pour le coup, sans biblio, sans source, sans machin, c'est qu'il y a un moment où c'est difficile, en fait, de comprendre la nature des contenus qui sont donnés. C'est-à-dire, est-ce que l'auteur les a inventés ex nihilo pour faire un peu d'argent ou pas, tu vois, c'est-à-dire, non, mais c'est des questions qu'il faut poser, tu vois. C'est
bien sûr, bien sûr.
Parce que c'est quand même des littératures qui sont très prolixes. Qu'il était déjà au 18e, hein. Mais tu vois, c'est quand même de se dire quels sont les critères pour déterminer le tu vois, pour séparer le bon du mauvais ésotérisme, tu vois, ça c'est des...
Le bon ésotérisme,
voilà,
et tire, ça va.
Ouais.
Moi, j'ai le sentiment aussi.
Oh, Guillaume, qu'est-ce que tu fais là?
Il apparaît,
Guillaume Sauvage apparaît.
En fait, ça, tu t'intéresses beaucoup plus à ce que ça convoque dans ta revue, en fait, plutôt qu'à ce que ça produit. Est-ce que toi, tu vois une différence entre les deux ou pas?
Ça convoque. Ouais, il y a un peu de ça, oui. Mais en fait, le problème, si tu veux, c'est que étudier ce que ça produit, là, quelque part, on rentre dans la zone du danger. Parce que quels sont les critères pour étudier ce que ça
justement,
produit.
Pour moi, tu vois, dans l'idée de tension, c'est là où tu sépares les deux. C'est que toi, tu cherches vraiment comment ça s'inscrit dans un système global, tu vois, et comment ça fait des liens, etc.
Ouais,
et pas tant
des idées,
un processus direct, action-conséquence magique, quoi.
Bah non, et puis effectivement, le problème, c'est que l'hypothèse du magique, ça, c'est une hypothèse qui est très compliquée à mettre en place. D'ailleurs, philosophiquement, déjà, personnellement, je suis pas complètement sûr de la partager. Et puis, même si je la partageais, d'un point de vue académique, c'est quand même très difficile à mettre en place.
Ouais. Et puis, moi, ayant lu une partie des bouquins et lisant d'autres types de bouquins qui relèvent de l'ésotérisme, tu ne trouves pas, comme tu disais, dans ces livres-là...
Pas de recette, quoi.
Non, en fait, ça explique ce qu'ont fait des gens, comment ça a été mis en place, mais ça n'explique pas. Quand tu ressors de ces bouquins, en fait, tu vas pas aller autour d'une table de Ouija pour.
Quand t'aimes l'ésotérisme, que tu lis Arcana Naturae, tu restes sur ta faim. C'est sec d'ésotérisme.
Alors attention, parce que déjà, il faut pas oublier qu'il faut vendre la revue.
C'est pas du public reportage ici.
Donc, tu restes sur ta faim. Ça reste à prouver. En tant qu'amateur
de développement personnel, lis Arcana Naturae, tu restes sur ta fin.
Attention, l'ésotérisme n'est pas du développement personnel.
Si t'es fan d'ésotérisme, c'est-à-dire que ton ambition, c'est de te connecter à des traditions ésotériques.
Oui, tout à fait. Et là, là-dessus.
Et là, je pense que ça ouvre des portes et que ça restitue, tu vois, tout un tas de contenus qui sont quand même. Il y a aussi un enjeu de source qui est immense, tu vois. C'est-à-dire, tu vas acheter un livre à la Fnac, comme disait Fly, il y a pas de biblio, il y a pas, tu vois. Donc t'es là pour le coup quelque part, selon le point de vue. Pour moi, je reste sur ma faim si je lis un truc de développement personnel qui n'est pas capable de m'ouvrir en fait à une profondeur historique.
Oui,
mais théorique.
Mais
peut-être
toi.
Parce que t'es pas quelqu'un qui pratique l'ésotérisme.
Ouais, peut-être. Peut-être.
En fait, puis ça dépend aussi quel type de bouquin tu lis. J'ai des trucs là-haut qui te feraient peut-être plaisir.
Ça, c'est possible.
Ouais. Mais parce que on fait quand même beaucoup de glissements. Tous les livres d'ésotérisme se trouvent pas au rayon développement personnel
de
chez Cultura.
Non, j'ai pas dit ça. Hein.
C'est
moi
ça
qui
dis
ça. C'est moi. Voilà.
Moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a une porosité. Tu vois, qui est un peu dangereuse, parce que elle a tendance, là aussi, à neutraliser le contenu ésotérique, d'une autre manière. Mais qui est de dire, rabattre une expérience de pensée fondamentale à du positif, enfin, tu vois, à une sorte de pensée positive, machin, développement
personnel.
Et surtout, ça la détruit tout autant.
Et surtout, comme tu l'as très bien dit, et je trouve que t'es très clair, il n'y a pas de continuité entre les zinzins du 21e siècle qui font de la naturopathie ou je sais pas quoi, enfin, qui prétendent faire ceci ou cela.
Il peut y en avoir.
Il peut y en avoir. Non, mais il peut y en avoir. Mais
attention, la pensée holistique de la naturopathie peut malgré tout avoir un truc intéressant. Tout n'est pas à rejeter.
Ah non, bien sûr.
Lu des livres de naturopathie, il y a quand même pas grand-chose à sauver, mais il y a quand même des trucs qui peuvent être intéressants en fait. La façon de considérer la personne en face, etc.
Je suis pas un odieux rationaliste scientiste spécialement, je ne cherche pas à rejeter le champ de recherche avec l'eau du bain, mais
non, c'est juste de bien différencier les types de savoir et se dire
il y a des
savoirs réflexifs, il y a des savoirs opératifs, tu vois, voilà.
Enfin, en tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant de te voir te dépatouiller avec cette idée que tu mets quand même à distance un champ de recherche qui peut-être plus tard, dans 100 ans, peut-être que des gens feront des recherches sur les rayons de Cultura au 21e siècle en faire une publication universitaire.
Même avant.
Une des différences qui existe peut-être, c'est aussi que tu contextualises beaucoup, en fait. Enfin, t'as un travail de contextualisation qui est immense dans Arcana.
Ah oui, bien sûr, c'est l'histoire des idées. Hein.
Mais si je reprends par exemple mon Marc Bloch, on peut faire l'histoire du temps présent, et donc théoriquement on pourrait tout à fait imaginer un papier ou un document qui montrerait par exemple comment aujourd'hui les traditions ésotériques sont redigérées par tout un tas de
nos camarades de sociologie et d'anthropologie.
Ce dont il a parlé au départ, c'est de dire que ce qui l'embêtait, c'était qu'une nana qui avait produit un texte.
Nana,
non, c'est moi qui dis ça. c'est pas grave. Ils t'ont entendu. Ils ont dit ça. Ils savent que t'as pas dit nana. C'est moi. Ouais. Une dame anglaise qui a produit un texte universitaire se fasse publier au rayon charcuterie. Voilà.
C'est sûr qu'il a pas dit ça. Mais voilà. Oui, c'est une très bonne traduction.
Et en fait.
Moi,
c'est...
par contre, ça m'interroge en tant que chercheur. Voilà. Il y a un problème.
Et par contre, ça veut dire que du coup. Un texte universitaire ne trouve pas un endroit universitaire pour être publié et se retrouve publié dans un endroit où traditionnellement il n'aurait pas été publié. Et ce qui tendrait à prouver par contre que du coup les personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme sont capables de lire à la fois des textes du rayon charcuterie et des textes universitaires, ce que les universitaires ne seraient pas capables de faire.
Ouais, alors Dervy, c'est pas non plus rayon charcuterie, faut pas les pauvres, faut pas.
Non, mais bon, c'est la référence au rayon charcuterie des inconnus.
Des inconnus.
Voilà.
Mais enfin voilà, on pourra en débattre. En tout cas, merci beaucoup. On va peut-être s'arrêter là. On va pas non plus continuer ce débat. Il faudrait y réfléchir. Il faudrait voilà. Mais j'ai trouvé ça très très intéressant. Vraiment ta description de la revue et tout. Tu connais Peter Eickhout? Non, je sais pas. Il travaille.
Je voulais lui poser la question aussi.
Je sais pas. Tu connais?
Quelque chose.
C'est un archéologue qui travaille à l'université libre de Bruxelles. Donc voilà, non, bah, tu transmettras notre amitié.
On est fan de lui, c'est
pour ça. On est grand fan de Peter Eickhout. Voilà, bon, c'est tout. Je voulais savoir. Ça me dit, bien sûr, Peter. Ça m'aurait fait rigoler. Ok. Merci beaucoup, Thibaut Rioux, pour cette présentation d'Arcana Naturae. Merci à Guillaume d'avoir popé à la fin. Merci à Valentin pour toutes ces questions qui ont permis à Thibaut de préciser sa pensée. Merci à Flavie. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien.
Salut.
À bientôt.
Salut.
Salut à tous.
Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.